Émission Mangeuse, ton émission du midi. Ton émission d'actualité, on analyse pour toi la politique. Dans quelques instants, dans le caucus avec Antonine Iaccarini. On va parler de Maïté Blanchette-Vézina qui se joint au Parti conservateur. Est-ce une opportuniste? Non seulement elle se joint au Parti conservateur, mais elle s'en va dans la pelleterie. La pelleterie, c'est quoi ça? C'est la circonscription d'Éric Kerr. Oh, attends, je vais ouvrir ton micro, Antonine, je m'excuse.
Ah, les gens n'ont pas entendu mon effet sonore.
Non.
Ça. Je disais pam, pam, pam.
Pam, pam, pam. On le sait, la pelleterie, Éric Duhaime, qui a milité dans cette circonscription-là pour une pétition pour obliger Éric Kerr à démissionner. Donc, bref, on va aller voir sur Québec 125. Mais d'après moi, c'est un comté qui est pas mal en avance pour le Parti conservateur du Québec. Alors, on se pose cette question-là avec Maïté Blanchette-Vézina. Notre chum Mathias qui est allé au point de presse de l'équipe technique des travaux Tram Cité. Parce que le maire nous le dit, tout va bien, mais il faut faire une conférence de presse à 9h30 matin pour expliquer qu'on va faire des changements. Comme un double message pour moi. Ça va bien, mais je vais convoquer la presse pour dire comment on peut faire mieux. Alors, c'est ce que Mathias est allé faire. Et on va également avoir dans la première heure Marine Anglois, directrice générale de la Société de développement commercial de Montcalm. Elle m'a écrit hier et elle m'a dit, même si Bruno Marchand dit que la communication va bien, je vous le dis, c'est le bordel dans la communication. Donc, on va avoir Marie Langlois avec nous aux alentours de 12h50. Sinon, 418-971-1021 pour nous joindre par texto. Également, blvd.fm, c'est notre web radio, c'est notre site web pour aller réécouter les meilleurs moments. Le caucus avec Antonine Iaccarini s'y retrouve à chaque jour, tout comme sur notre page YouTube, où je vous invite à aller vous abonner. twitch.tv/blvd/fm pour venir voir nos faces en studio. Et la meilleure façon de nous écouter, l'application BLVD 102.1, disponible sur App Store et Google Play Store. Pascal CV, comment ça va?
Ça va très bien.
C'est pas ta fête aujourd'hui, mais c'est la fête à Rémi Villemur.
Ouais, on suit, lui et moi.
Ouais, exactement. Donc, on l'a tout à l'heure, Rémi, justement, aux alentours de 13h05, 13h10. Il veut déchirer sa chemise sur Desjardins et sa nouvelle façon d'afficher le solde des cartes.
Et avec raison, tu sais, hier, il y avait trop de nouvelles pour qu'on en parle, mais sérieusement, là, quand tu mets, mettons, une couple de centaines de piastres, ta carte de crédit, puis c'est pas affiché, ça te prend 24, 48 heures, c'est un peu tannant.
Ben,
c'était
exactement
comme ça avant, on pouvait le voir maintenant. On a fait une mise à jour, c'est plus le cas, puis on dit on peut pas reculer.
Non.
Fait qu'il va falloir faire avec.
Ah, il va falloir faire avec, c'est ça. Il est pas très satisfait de la réponse de Desjardins, il va nous parler de ça. J'en parle que c'est sa fête, parce que je suis sûr que tu vas me faire penser de souhaiter bonne fête. Moi, c'est le genre d'affaire que j'oublie. Moi, une chance que Facebook existe pour me dire que c'est la fête du monde.
Fait que les gens qui écrivent pas leur fête sur Facebook n'auront jamais de bonne fête de ta part.
Non, ben exactement. Ou qui n'ont pas écrit à bonne date au moment de s'inscrire, parce qu'il y en a qui ont fait ce fin finot-là.
Ah,
là,
c'était mon cas. J'avais peur de tout quand
c'est
ça. Je mettais pas mes
puis
dates.
Puis là, ben, l'autre jour, j'ai souhaité bonne fête à une de mes amies le 2 janvier. Elle me dit, ah, c'est pas le 2 janvier. C'est la fête que j'ai souhaité bonne fête quand même. Elle me répondait. Elle dit,
mais
non,
Facebook, ça a changé aussi. Il y a une mise à jour qui maintenant te propose des mots préconçus, des phrases préconçues. Là.
Mm-hmm.
Puis là, à un moment donné, tu reçois une coupe de bonne fête, c'est toute la même chose. Joyeux anniversaire, virgule, ton prénom avec 2-3 émoticônes. Fait que tu vois qu'il prend un peu plus le temps pour en mettre des personnalisés ou pas.
Ben moi, sinon, si je le fais par Facebook, souvent, je choisis la phrase déjà parce que sinon, je vais aller écrire à la personne, soit par texto,
moi,
sur Messenger, mon message de fête en
privé. Personnalisé.
Personnalisé.
En tout cas, moi, tu pourras pas me souhaiter bonne fête parce que ma date de fête n'est pas sur Facebook.
Non!
Non.
C'est quoi ta date de fête?
Je le dis pas.
Hein? Je pourrais même pas jamais te souhaiter bonne fête.
Jamais.
Ah ouais, mais tu sais qu'ici, là, maintenant que tu collabores à temps régulier, Pascal,
c'est dans mon dossier d'employé.
C'est ça. On va la faire intégrer au calendrier des bonnes fêtes.
Non, fais pas ça parce que je déteste ça. C'est pas des
jokes. Ah, ouais?
Je n'aime pas ça.
C'est de valeur parce que je connaissais bien la personne qui a le calendrier.
Ouais, t'as des bons contacts. Et pourtant, Anto est d'une générosité. Quand j'ai eu 30 ans, elle a écrit un texte, puis il était plus global pour les gens qui passaient le cap de la trentaine.
Mm-hmm.
Puis
t'écris
pour nouveau, hein, c'est ça, des fois. Fait qu'elle avait écrit à une de mes amies, tombe dans la trentaine, voici mes conseils.
Ouais.
Voici mes conseils pour t'assurer de mettre des bonnes bases ça pour la suite des trentaine. Choses.
Mais je trouve qu'à notre âge, passer une décennie, dans nos âges, passer des décennies, c'est des moments importants. Mais se souhaiter bravo d'être né à chaque année, là, moi, à un moment donné. Moi, c'est pas mon trip à moi. Puis surtout, quand c'est écrit sur Facebook, je passais ma journée à gérer 500 messages, dont... Tu sais, trois quarts de gens que je connais pas vraiment.
Ouais, mais là, c'est parce que t'es trop populaire, 500 messages.
Ben là, t'en reçois combien, mettons?
On reçoit beaucoup.
Ben, c'est ça, ça fait beaucoup. Mais il y en a à qui ça fait plaisir. Moi, l'anniversaire, c'est pas quelque chose qui me...
D'accord.
Je préfère quand les gens pensent à moi...
À l'année longue.
Oh,
à
l'année longue. C'est donc
bien. Même principe que la Saint-Valentin.
C'est donc bien bien
dit. Ouais, là, parce que la Saint-Valentin, je veux quand même un cadeau.
Je veux qu'on souligne, qu'on se freine, puis un cadeau.
Je suis tellement content. Je comprends pourquoi le chum Anto est comme il est. Quand on le voit ici des fois, il est calme.
Oui.
Je le comprends parce qu'il y a tellement de consignes qui viennent différentes. Souhaite-moi pas bonne fête. Donne-moi un cadeau
à Saint-Valentin.
Ah, il n'y
a pas besoin. Il l'aime tellement. Là. Exact. Ça, elle ne va pas se prononcer ou elle va se prononcer. Mais il l'aime tellement.
Ben, c'est ça.
Il s'en fout bien raide de ses commentaires ou de ses règlements. Il les instaure lui-même.
Oui, ouais. Je l'adore, ton chum. C'est un modèle pour nous tous. Va falloir que j'aille souper avec lui. Pascal Sévin, avant de passer au caucus, il y a Karine. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Ben oui, ben, il y a une annonce importante. On en a jasé un peu, mais Maïté Blanchette-Vézina qui convoitera la pelleterie. Alors, c'est officiel. Ils se sont flirtés pendant bien longtemps. Elle et Éric Duhaime, c'était une question de temps après avoir quitté la CAQ pour Mme Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, d'annoncer son nouveau mandat. Elle rappelle d'ailleurs que c'est un engagement qu'elle va chapeauter avec intensité, avec respect, tout ça. Mais Maïté Blanchette-Vézina est officiellement aux côtés d'Éric Duhaime pour les prochaines élections. Circonscription, la pelleterie qui est actuellement détenue par son ancien collègue à la CAQ, Éric Kerr. Sinon, chantier du tramway, bilan positif, mais un chaos inévitable, c'est ce qu'on dit du côté de l'Hôtel de Ville. Bruno Marchand était en entrevue hier avec l'équipe du retour. C'est toujours possible d'aller le reprendre. Mais on a dressé un bilan positif du début du méga chantier du tramway, du réseau de transition d'autobus aussi. Mais on s'entend quand même à des journées de chaos durant les travaux. À vous et à vos claviers, 88-971-102, vous en pensez quoi? Gilles Loly a été approché dans les dernières semaines par le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard. C'est ce qu'a appris le Soleil. Donc, l'ex-maire de Lévis confirme avoir rencontré pour discuter de politique il y a environ 2-3 semaines. Il parle toutefois d'une rencontre informelle. Il précise qu'il n'a reçu aucune offre en vue des prochaines élections. Pour M. Milliard, on a voulu minimiser la nouvelle. On a indiqué que les discussions sur une éventuelle candidature ne sont pas sur le radar, mais il est toujours heureux de compter sur ses conseils et son amitié, donc à M. Laulier. Important quand même, cette nouvelle-là. Hein? On pensait qu'il allait quitter la politique.
Mais... Non, il avait laissé la porte ouverte voilà à peu près un an qu'il allait peut-être justement continuer ailleurs en politique. Et là, cette porte-là est ouverte plus que jamais. Ce matin, on se posait la question justement, est-ce qu'on le prendrait comme candidat avec le fait qu'à Lévis, ça va quand même pas bien à l'heure actuelle. Anto, t'en penses quoi?
Ben, c'est ça. C'est une candidature qui est chargée et en ce moment, ça brasse beaucoup du côté de la municipalité, de son héritage. Donc, en tout cas, je ne sais pas si le Parti libéral a sûrement des candidatures qui viennent avec un moins gros bagage.
Je suis convaincu que le Parti conservateur du Québec aussi, avec la montée dans les sondages, le fait qu'ils sont très bien placés dans Chaudière-Appalaches, j'imagine qu'on est capable d'aller chercher un candidat qui va faire moins de diversion.
Certains auditeurs nous écrivent, ça presse pas, le Laulier.
Non, exactement.
Non. Après, Bernard Drainville, qui est candidat à la chefferie du Parti de la CAQ, il y a le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, et la porte-parole du PQ en matière d'habitation, Catherine Genticor, qui présentait ce matin l'offensive qui va mener un gouvernement du Parti québécois à diminuer les coûts de la construction au Québec. On voit que c'est un pancho là, de la politique provinciale en ce moment, et le PQ embarque dans la danse. Donc, on dénonce les coûts de construction anormalement élevés au Québec, et on parle aussi de manque de constance, de fiabilité du gouvernement comme donneur d'ouvrage, du fardeau réglementaire trop lourd. On sent qu'aux prochaines élections, ça risque d'être un des nerfs de la guerre. Super intéressant de voir qu'on s'y penche aussi. Et je vais terminer avec des nouvelles de la collision à l'aéroport LaGuardia. Hein, tragédie immense. Le camion qui a été touché, a été le seul de son convoi à ne pas s'arrêter. C'est ce qu'on a dans les informations de dernière minute. L'enquête sur la collision entre l'avion de Jazz Aviation et le véhicule d'urgence est toujours en cours. On a élément après élément. Bien sûr, on veut plus pour être révélateur dans cet accident-là. Et on on pense aussi aux pilotes, aux copilotes qui ont malheureusement perdu la vie dans tout ça. Beaucoup de blessés aussi. Et on comprend que la manœuvre, finalement, a épargné beaucoup de vies.
Hier, tu nous avais fait un très bon dossier avec Charles-Éric Lamarche. On l'a eu ce matin également dans Marceau le matin. Alors, les deux entrevues sont disponibles sur le BLVD.fm. Hier, vraiment, au premier balbutiement de cette tragédie-là. Et ce matin, là, avec justement les informations qu'on avait en surplus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Iaccarini. C'est du lundi au jeudi à compter de midi jusqu'aux alentours de 12h30. Antonin, le mariage s'est fait entre Maïté Blanchette Vézina et Éric Duhaime. Est-ce que Maïté Blanchette Vézina est une opportuniste en quittant Rimouski pour la pelleterie?
Bon, il y a une dose d'opportunisme à travers ça, c'est sûr. Moi, je trouve surtout que c'est un deal très gagnant pour Éric Duhaime.
Vraiment?
Semi-gagnant pour Maïté Blanchette Vézina. Semi-gagnant parce qu'elle a des bonnes chances de l'emporter dans la pelleterie, mais c'est pas gagné non plus. Je regardais justement les projections dans la circonscription. Le Parti conservateur est en tête avec 31 % des voix. Parti libéral à 27 % Mais ça n'a pas terminé de bouger. C'est quand même serré. Là, je vois le PQ est à 23 % quand même encore. Donc, ce genre de course à trois et même à deux, ça peut, dépendamment si le PQ continue de se maintenir. Là, en banlieue de Québec, le PQ, c'est quand même surprenant. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des chiffres comme ceux-là. Donc, c'est pas gagné. C'est pas un château fort.
Jamais gagné d'être parachuté. Je me souviens, dans Chauveau, on avait parachuté Jocelyne Cazin du côté de la CAQ. Et c'est l'ancienne, justement, lectrice de nouvelles, Véronique Tremblay, qui l'avait emporté. Une fille native de Québec.
Absolument. Donc, le parachutage, ça a un coût. Le virage de capot, ça a un coût aussi. Maintenant, c'est sûr que pour Éric Duhaime, tu te dis, il faut qu'il aille chercher des candidats qui ont une certaine crédibilité. Tantôt, on parlait de Gilles Lehoulier. Oui, il arrive avec un bagage, mais c'est quand même quelqu'un qui a une expérience de pouvoir exécutif, de gestion, qui est intéressante parce que M. Duhaime doit trouver 125 candidats. Là. Puis la dernière campagne électorale, c'était pas tous nécessairement des super champions. Donc, pour lui, Maïté Blanchette, qui a été ministre, c'est intéressant. Mais pour elle, il va falloir qu'on comprenne un peu le fil conducteur de ses valeurs. Parce que être vire capot, ça peut arriver en passant de changer de parti politique. Je veux dire, René Lévesque a changé de parti politique, Lucien Bouchard a changé de parti politique.
Oh, puis nous, en tant qu'électeurs, on change de parti politique aussi parce que notre pensée évolue.
Elle peut évoluer et les partis changent aussi. Le Parti libéral de Jean Charest, le Parti libéral de Philippe Couillard puis le Parti libéral de Dominique Anglade, c'est trois partis différents.
Prends juste moi, je me retrouvais dans le Parti libéral de Philippe Couillard, dans celui de Dominique Anglade, pas pantoute.
Pas pantoute. Donc, il faut avoir une flexibilité. Moi, j'ai pas de problème. C'est juste que le timing... Bon, Madame Blanchette Vézina a décidé de quitter le jour où elle a été exclue du Conseil des ministres. Un peu comme Claire Samson, qui était frustrée, elle aussi, à l'époque, parce qu'il y a des comparaisons à faire avec Claire Samson. Éric Duhaime refait le coup, avant quelques mois des élections, d'aller chercher une députée à l'Assemblée nationale, une députée indépendante.
Ça a été gagnant une fois, fait qu'on est allé pour la deuxième fois, mais pour Maïté Blanchette-Vézina, ça a été long avant qu'il se passe l'anneau là, politique là, au doigt. Est-ce que c'est justement parce qu'elle se questionnait au niveau des valeurs, selon toi?
Je pense qu'elle a voulu laisser... une période tampon. Elle a voulu aussi agir comme députée indépendante, aussi parce qu'au début, elle disait vouloir respecter ses électeurs. Donc, elle disait « Je vais continuer de siéger, compléter mon mandat et je vais le compléter comme indépendante plutôt que de passer d'un parti politique à l'autre et vraiment là, être une transfuge comme telle. » Mais le résultat est finalement un peu le même. J'imagine qu'Éric Duhaime devait la travailler au corps pas mal parce que pour lui, c'est très, 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 très intéressant. Là, Maïté Blanchette ou Youri Chassin, en passant, pouvait inviter M. Duhaime à venir faire des points de presse, etc., pouvait faire des alliances ponctuelles, mais demeure qu'il n'y avait pas d'élu de la bannière conservatrice. Bon, personne n'a été élu sous la bannière conservatrice quand même, il faut se rappeler. Mais pour M. Duhaime, ça veut dire que la porte est constamment ouverte maintenant à l'Assemblée nationale pour lui. Qu'est-ce que ça donne de plus? On peut se dire, ah, c'est pas grave. T'sais, M. Duhaime a quand même réussi à maintenir sa force politique et devenir un incontournable malgré tout. Mais quand même, la presse parlementaire, les journalistes qui couvrent la politique, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils ont leur bureau sur place, ils arpentent les corridors de l'Assemblée nationale. Il y a des points de presse en tout temps. Okay, à l'Assemblée nationale, tu peux dire à quelques minutes d'avis, là, tu rentres dans une salle avec un micro, des caméras et tu convoques un point de presse. Puis dans cinq minutes, tu as tous les médias du Québec qui vont te couvrir. Évidemment, ils ne sont pas obligés de faire un article ou un reportage avec ce que tu dis, mais c'est un accès qui est extraordinaire. Deuxièmement, c'est le fait de pouvoir poser des questions au gouvernement, parce qu'il y a la période de questions, c'est ce qu'on voit le plus hein, dans les nouvelles, les extraits qu'on voit de l'Assemblée nationale, c'est rarement les commissions parlementaires où on ne se chicane pas, c'est la période de questions. Et là, Mme Blanchette-Vézina va pouvoir poser des questions au nom du Parti conservateur, donc là, va devoir s'entendre comme indépendante et poser des questions, peut-être en demandant l'avis à M. Duhaime, mais peut-être pas non plus.
Et tu nous avais expliqué aussi que pour Éric Duhaime, ça lui assure pratiquement une place pour le débat des chefs en raison justement d'une présence à l'Assemblée nationale d'une députée. Je pense que c'est là qu'il est le plus gagnant, Éric Duhaime.
C'est majeur, OK? Parce que les conservateurs n'aimaient pas trop ça quand je disais ça, parce que je disais ce que ça leur prendrait, c'est... À l'époque, je parlais de Youri Chassin, quand il est parti de la CAQ, je me disais, c'est tellement... Il est conservateur, Youri Chassin.
Exactement.
Donc, je me disais, il va ouvrir la porte de M. Duhaime à l'Assemblée nationale, mais à avoir son lutrin au débat des chefs. Parce qu'il faut comprendre que les règles de qui est invité au débat des chefs, c'est pas quelque chose qui est régi par le directeur général des élections. C'est quelque chose qui est régi par les médias eux-mêmes. Donc, on peut décider où on trace la ligne de t'es invité ou t'es pas invité. Pour Éric Duhaime, c'est sûr que quand on voit qu'il est à 15% dans les sondages depuis quand même longtemps maintenant, et qui a fait un résultat très intéressant aux dernières élections, j'aurais été surprise qu'il ne soit pas invité.
Moi aussi. Surtout avec le résultat, en plus, à Chicoutimi, à l'élection partielle, où il s'est classé deuxième derrière le PQ en région.
Mais ça demeure subjectif et arbitraire oui. jusqu'à un certain point. À partir du moment où est-ce que tu as une représentation à l'Assemblée nationale, même si l'élu n'a pas été élu comme tel en 2022, bien là, il me semble que c'est très clair que M. Duhaime a sa place. Puis, il me chicanait, j'avais des petits textos, là, il me disait « C'est même pas vrai là, que si on n'a pas de député, on ne peut pas être au débat des chefs. » Mais d'après moi, maintenant qu'il y a un député, ils vont le plaider. Ils vont dire « J'en ai une députée, là, il faut qu'on soit invité. »
Exactement. C'est pas vrai quand j'en ai pas, ça devient vrai quand j'en ai. Là. C'est correct, ça. Hey, un texto super intéressant qui est rentré. Maïté Blanchette-Vézina aurait quand même pu attendre à l'automne. Ça donne l'impression qu'elle ne fera plus rien pour Rimouski d'ici l'élection. C'est croche en maudit. Ma famille habite à Rimouski, sont vraiment fâchés.
Bien, ils n'ont pas tort. Il n'y a pas tort parce que même si elle va dire « Non, je vais représenter mes élus, mes commettants, pas mes élus, mes électeurs de Rimouski », la priorité, c'est de se faire élire dans la pelleterie. Puis je vous le disais tantôt, ce n'est pas gagner d'avance dans la pelleterie. Elle va devoir quand même travailler très fort. Donc, on s'imagine que le terrain va se faire pas mal plus dans la pelleterie que dans Rimouski comme tel. C'est un bon comté quand même pour le Parti conservateur, la pelleterie, là, mais... Madame Blanchette-Vézina met beaucoup l'accent sur les régions. Je dirais pas que la pelleterie, c'est un comté de région. En
non,
tout cas, moi, je trouve pas.
C'est pas mal un comté urbain.
C'est ça.
Est-ce qu'on a fait un choix quand même avisé de se dire, ah, Éric Kerr, on n'en a plus vraiment parlé. Ça a été très difficile avec la SAAQ Click. On va l'envoyer là. On risque de gagner.
Bien, peu importe si ça avait été elle ou un autre candidat, le Parti conservateur avait des bonnes chances. En fait, c'est une des bonnes circonscriptions qu'il avait à distribuer. Donc, okay. Il a décidé et fait ce choix-là. Et M. Duhaime a dû quand même se poser la question parce qu'il se présente comme quelqu'un de très intègre, en opposition à un gouvernement de la CAQ qui a fait plein d'affaires, à son avis, qui sont croches, qui ne sont pas correctes, qui a manqué d'intégrité sur plein de choses. Bien, en faisant ça, il se salit un peu, dans le sens que il prend une transfuge, il parachute une candidature qui ne vient pas de la place. Donc, il y a quand même quelques risques à présenter Maïté Blanchette, mais je pense qu'il a dû peser les pour et les contre et dire qu'il y avait davantage de pour que de contre pour lui en faisant ça. Et surtout, à mon avis, il veut créer aussi un effet d'entraînement, de montrer que le Parti conservateur est une vraie force politique puisque les partis sont en recrutement intense en ce moment. Bon, le PQ, ça va bien, vous voyez. Il présente à chaque semaine des candidatures, notamment dans Rimouski.
Oui.
Le PQ qui présente un pédiatre dans Rimouski. Et d'ailleurs, Pascal Bérubé, ce matin, lançait un défi à Maïté Blanchette-Vézina de se présenter dans Rimouski. J'ai voilà. trouvé ça très bon.
Le Parti conservateur dans Rimouski était à plus ou moins 8% sur Québec 125. C'est sûr ouais, qu'elle n'allait pas là.
Est-ce qu'elle est appréciée comme personnalité politique? Parce qu'on entend un peu tout et rien sur elle.
Je te dirais que c'est mitigé. C'est-à-dire que localement, elle est connue, elle était très impliquée, etc. Mais il y avait toutes sortes de rumeurs aussi qu'avant les élections en 2022, elle aurait magasiné son parti politique. Mm-hmm. Donc, ça aussi, quand elle a décidé de quitter la CAQ.
Parce qu'elle était mairesse là-bas.
Elle a été mairesse, effectivement, d'une municipalité.
Oui, dans le coin de Rimouski, oui, me semble.
Si je ne m'abuse, je ne viens pas de la région, pardonnez-moi.
Non, mais c'est ça. Donc, c'était une figure populaire de la région. Alors, elle en a profité pour « OK, qu'est-ce que tu m'offres, Québec solidaire? Qu'est-ce que tu m'offres, la CAQ? Qu'est-ce que tu m'offres, les libéraux? »
Je
parle pas du PQ,
CAQ,
parce que dans ce temps-là, il était très beau. Ben,
c'est ça. Puis, tu sais, se présenter pour la CAQ en 2022, là, c'est pas un risque bien, bien élevé. Puis là, tu te présentes pour le Parti conservateur en 2026 dans la pelleterie. Tu sais, elle choisit ses circonscriptions. Mm-hmm. Donc, on s'entend que au niveau des convictions, on peut être sceptique. Moi, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un change de parti politique. Tu sais, à un moment donné, un parti, là, il peut avoir un élément de contenu, une prise de position qui... C'est un deal breaker pour toi. Ça ne fonctionne pas. Puis on en a vu. Regardez, Stephen Guilbeault, au fédéral, il a décidé de quitter à la suite d'une entente avec l'Alberta sur un pipeline. Il a dit, moi, je m'excuse, j'en ai avalé des couleuvres dans ma carrière. Là, celle-là est trop grosse, je ne l'avalerai pas. Hey, puis il n'a même pas quitté le Parti libéral en passant, mais
non.
Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des gens qui disent qu'on devrait interdire les transfuges, ils devraient être obligés de démissionner, puis on refait une élection. Moi, je ne suis même pas là-dessus. T'sais.
Non, je suis d'accord avec toi.
Mais du côté de Maïté Blanchette Vézina, il y a quand même quelque chose un peu de... C'est difficile de ne pas y voir aucun opportunisme. Je comprends là, les régions. Puis là, ce matin, elle nous expliquait qu'elle veut réduire la taille de l'État puis ça va être mieux pour les régions. Tu sais, moi aussi, je suis capable de faire des contorsions avec n'importe quoi puis de justifier n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Donc, bref, à suivre. Mais peut-être aussi qu'elle aura une carrière florissante comme conservatrice.
En effet.
Et qu'on va comprendre le fil conducteur. Et que quand ça va être plus difficile pour le Parti conservateur, elle ne quittera pas, elle restera. C'est elle ça. Se présentera pareil, même si les projections sont pas bonnes. L'avenir.
Elle
nous
deviendra
le dira.
Chef du Parti conservateur. Bon, fini les rêves.
Qui sait?
Vous êtes dans le caucus avec Antonine Iacarini, segment du lundi au jeudi de midi à 12h30 sur les ondes de Boulevard 101 à l'émission On en jase. Je te fais une ligne du temps avec ma relation avec Gilles Bélanger d'hier.
OK. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Gilles Bélanger, parce
oui,
que c'est un peu normal, c'est le ministre de la cybersécurité et du numérique qui a remplacé Éric Kerr. C'est pas le plus connu.
Non.
Mais il est comique en titre.
Lui, s'était mis les pieds dans les plats dès la démission de François Legault, quand le lendemain matin, là, puis là, je vais parler en termes de mort, mais de mort politique, le cadavre était pas refroidi, puis lui, il est sorti pour dire « Je veux Christine Fréchette! » Fait que déjà, en partant, on comprend que c'est pas Monsieur Communication, OK?
C'est pas Monsieur Diplomatie non plus.
Non, ouais. Exactement. Hier, fait une sortie, parce que lui, il est pro-Christine Fréchette, puis si c'est Drainville qui gagne, à chaque montant de la CAQ, je veux rien savoir. Donc, moi, je tombe là-dessus. Je dis, mais mon Dieu, j'ai besoin de Gilles Bélanger en entrevue. Alors, j'écris à son attaché de presse. Il est à peu près 4h de l'après-midi. Son attaché de presse me répond, à quelle heure? 8h30. Oui, parfait, complété, excellent. J'informe Yannick Marceau, l'animateur de Marceau le matin. Il dit, parfait, ça va être bon, Gilles Bélanger. Oups, je sors du gym, moi, à 6h30. Je prends mon fil d'actualité. Christine Fréchette qui a fait une sortie. Il n'est pas question qu'on commence à jouer à ça. Puis, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Comme par magie, pendant que je suis en train de lire l'article sur mon téléphone, j'ai un message de l'attaché de presse de Gilles Bélanger.
Ben, voyons.
On a un empêchement pour repas.
Oh, c'est
quel hasard!
Ben, ça donne si mal!
Là, ça fait deux fois qu'il y a des problèmes de communication. D'après moi, on va le gérer un peu mieux du côté de Christine Fréchette. Là.
C'est ce qu'on appelle un loose cannon dans le langage politique. Bon, écoute, hier, il faut le dire, là, Christine Fréchette avait des annonces quand même intéressante à faire.
Oui, d'ailleurs, Pascal nous a préparé un dossier là-dessus, justement, sur les annonces de sécurité publique et d'informatique.
Et en plus des annonces sur le contenu, il y avait des appuis de taille à annoncer du côté de Christine Fréchette. Éric Girard, ministre des Finances, France-Hélène Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, c'était deux appuis qui étaient attendus, même, j'ai envie de dire, ils étaient même plus attendus dans le sens qu'on pensait peut-être qu'Éric Girard n'allait pas se positionner dans cette course et finalement a décidé d'appuyer Christine Fréchette. Mais est-ce qu'on a parlé de ça?
Non.
On a parlé de Gilles.
On a parlé de mon oncle Gilles.
On a parlé de Gilles qui, lui, trouve que si Bernard Drainville devient chef, c'est tellement la catastrophe que lui, il va s'en aller carrément de la CAQ. Ce qui a fait en sorte que M. Drainville a réagi. C'est tellement facile pour M. Drouin, je m'excuse. Il devait dire ah, avec un appui de même, Christine, t'as pas besoin d'avoir des adversaires politiques.
Exactement.
Donc, il a fait un tweet dans lequel il invitait là, Christine Fréchette à faire un appel au ralliement après
un
la
message
course.
À l'unité caquiste.
Un message à l'unité caquiste. Et Christine Fréchette a été obligée de le faire. Donc, elle avait l'air à la remorque encore de M. Drainville. Puis, il faut le dire, le contexte en ce moment aussi, c'est que M. Drainville a eu un bon débat en fin de semaine. Ça a bien été
oui, vraiment. M.
Drainville. Christine Fréchette qui a fait un débat correct, mais tu sens...
Il commence à faire peur, Bernard?
Oui, parce que, pas nécessairement parce que les sondages sont à son avantage. Moi, je suis certaine qu'on va avoir un autre sondage d'ici la fin de la course, bien évidemment. Mais les sondages aussi, dans une course à la chefferie, c'est un peu plus compliqué d'avoir le portrait exact parce qu'on va sonder des sympathisants qui ne sont pas nécessairement les membres actifs, ceux qui vont vraiment voter. Donc, il peut y avoir des distorsions. C'est un peu dur à prévoir. Je ne peux pas dire que tout a reviré de bord samedi pendant le débat, mais M. Drainville a fait un bon débat. Son équipe et ses militants étaient très, très contents, alors que ceux de Christine Fréchette étaient satisfaits, savaient qu'ils avaient juste à faire quelque chose de... Tu sais, un match sans point ni coup sûr. Je ne sais pas, je suis bonne dans les métaphores.
Un match sans point ni coup sûr, ça, c'est vraiment un exploit dans le baseball. C'est pas ça. Alors, c'est que le lanceur...
Il fallait une partie nulle. OK. Écoute-moi. Ça prenait une partie nulle pour que Christine Fréchette et son équipe soient satisfaits.
Ça, j'aime ça.
Non, bravo. Je ne vais plus jamais m'aventurer dans
les métaphores de sport. Félicitations, Antonine. Non, mais fais-moi en parler avant, je te glisserai à mon
avis. Effectivement, il faudrait que je les prépare un peu mieux. Toi. Non, mais il ne faut jamais aller sur un terrain qu'on ne connaît pas, tu vois. Il faut connaître son expertise. Je n'y connais rien en baseball. Donc, tout ça pour dire que M. Drainville a eu un bon débat. Et là, Mme Fréchette avait besoin d'avoir des bonnes journées, tu sais, faire des annonces et tout ça. Et quand tu as quelqu'un comme ça dans ton entourage, qui te met des bâtons dans les roues. Tu te dis, hey, la prochaine fois, laisse faire de m'appuyer, mon ami, puis reste chez vous.
Va-t'en appuyer, Bernard. On termine le caucus avec la loi sur la laïcité parce que les signes religieux, c'est-à-dire l'absence de signes religieux et le port de signes religieux, va être interdit dans nos milieux de garde subventionnés, autant les CPE que les garderies privées. Et là, il y a un sondage qui est sorti auprès de la population. Mais avant que tu nous parles des résultats du sondage, on retourne dans le temps. 24 octobre, émission de Richard Martineau sur Cube Radio. On écoute pourquoi Jean-François Roberge avait décidé d'étendre cette règle-là au service de garde.
De cheminement dans la société. L'objectif en laïcité, là, c'est pas nécessairement d'aller le plus loin possible, le plus fort possible, le plus vite possible. C'est un sujet qui est délicat. On parle de droits fondamentaux, on parle de laïcité de l'État, mais il faut être en phase avec les Québécois. Il y a des pays européens qui vont beaucoup plus loin que nous, puis ils peuvent avoir raison de le faire. Mais notre modèle, c'est pas juste de copier ce qui se fait ailleurs. Puis en 2019, je vous dirais que notre loi 21, elle était audacieuse. Plusieurs Québécois trouvaient qu'on allait pas assez loin, d'autres trouvaient qu'on allait trop loin. Mais depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. L'école Bedford notamment, mais pas seulement. Puis l'opinion publique a changé. Puis je pense que la plupart des Québécois voient notre loi 21 comme le minimum en ce moment, puis trouvent que c'est le temps d'aller un peu plus loin. Donc je pense qu'il faut écouter les gens, puis je suis d'accord avec cette opinion publique-là. La mienne aussi a évolué au cours des dernières années. Et puis, voilà pourquoi on pense que le fruit est mûr pour avancer, puis à étendre les principes de laïcité dans nos garderies et nos CPE privés subventionnés aussi.
Donc, Jean-François Roberge a mûri sa réflexion. Il a écouté la population. Il s'est élevé au-dessus de la masse et il a dit « Les signes religieux dans les services de garde subventionnés, c'est fini. » Mais là, il mange la claque d'en face aujourd'hui.
Ben oui. Puis là, il faut le dire, c'est un sondage qui est commandé par les garderies privées qui, clairement, n'allait pas être nécessairement très favorable à une nouvelle loi parce qu'on est dans un cas de pénurie de main-d'œuvre. On a des employés en ce moment, certains qui portent des signes religieux. Alors, M. Roberge nous dit qu'il faut écouter les gens. Alors, qu'ont-ils dit, ces gens, quand on leur a posé la question? On leur a demandé s'ils étaient à l'aise ou s'ils trouvaient acceptable d'avoir des éducateurs et éducatrices en garderie qui portent des signes religieux. 68 % des parents se disent à l'aise. 68 %,
donc c'est quand même très fort. Et j'ai pas le choix de te poser la question parce que Yannick Marceau m'a posé la question ce matin, puis j'ai dit, ben tu sais, la laïcité, c'est un beau principe, et moi aussi, je veux d'un État laïque. Mais si j'étais dans la situation de parent que je ne suis pas sur la liste d'attente de 30 000 personnes, puis j'ai une place en service de garde, Bien, la laïcité, elle devient moins importante.
Puis je vais aller plus loin que ça, Jeff, parce que moi, je suis quelqu'un de très fervente en matière de laïcité. Je suis pro-laïcité.
Ah, moi aussi.
Mais la laïcité, c'est pas d'interdire toute visibilité de religion autour de soi, là. OK? Puis Bedford, l'école Bedford, on parlait d'entrisme religieux. On parlait d'enseignants qui empêchaient des femmes de rentrer dans des classes. Ouais. On parlait d'enseignants qui faisaient des prières en classe. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui porte un signe religieux dans une garderie. OK? Puis là, je continue juste un instant sur les données. Il y a 60 % des parents qui appuie l'interdiction de signes religieux aux fonctionnaires en position d'autorité. Là, ça, c'est Bouchard-Taylor. Donc, évidemment, c'est pas parce que tu es contre qu'on interdise les signes religieux dans une garderie que tu étais contre la première loi sur la laïcité, donc la loi 21, celle qui a interdit les signes religieux chez les personnes en position d'autorité. Les gens appuient ça. Mais les mêmes personnes qui appuient ça n'appuient pas qu'on interdise les signes religieux. Et j'en suis... Je trouve... C'est des gens qui s'occupent d'enfants de moins de 5 ans.
Je veux dire, de ne pas mettre ça non plus dans le même panier. Puis moi, j'aimerais savoir combien de personnes ont répondu au sondage qui habitent, par exemple, à Montréal. Alors... Parce qu'ils sont beaucoup plus en contact avec ces gens-là. Puis ils sont peut-être moins, je veux dire, peureux, moins contre, parce qu'ils voient que tout se passe bien, puis que les enfants mènent bon train leur passage en garderie et tout ça, versus dans des régions où on en voit un peu moins.
Bien, premièrement, on en voit un peu plus davantage dans les régions. Hein. C'est moins un phénomène qui est uniquement à Montréal maintenant. Cela dit, quand on regarde les résultats, bien, hommes-femmes, déjà, il y a une différence. Mm-hmm. Les femmes sont plus tolérantes face à la présence de signes religieux. Ça fait moins partie de leur priorité, la question des signes religieux versus le bien-être des enfants, par exemple, quoi qu'on n'a pas à les mettre en opposition, mais quand même. Après ça, quand on regarde francophones, anglophones, allophones, il y a des différences aussi. Les francophones sont plus favorables à l'interdiction des signes religieux que les allophones et les anglophones. Après ça, quand on y va par région, à Montréal, effectivement, les gens sont plus tolérants, entre guillemets. Puis je ne dis pas que les gens en région sont intolérants. Là.
Non, mais je pense juste que je pense que quand tu côtoies la diversité, t'es plus... Tu sais, ma fille, à Sept-Îles, elle n'avait jamais vu une personne de couleur noire. Puis la première fois, elle se pose des questions.
Il y a les deux qui existent. C'est-à-dire que moi, quand je vois une femme avec le visage couvert, je suis exposée à ça et ça me choque beaucoup plus que quand je ne les vois pas. Fait que les deux peuvent être vrais. En région, effectivement, les gens sont un petit peu plus favorables à l'interdiction. Mais même si on regarde tous ces groupes-là, c'est toujours la majorité qui accepte les signes religieux dans les garderies. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'en milieu de service de garde, les gens, ça les inquiète moins. C'est moins une priorité, j'ai envie de dire, là, la purge, le complète de toute trace de religion qu'à l'école. L'école, c'est différent, OK? Les éducatrices et éducateurs, ce ne sont pas des enseignants. On n'est pas dans un lieu où on est en train de parler de philosophie puis d'en faire
des
citoyens.
On est dans un lieu ludique.
Hey, on leur apprend à aller à la toilette.
C'est ça.
Puis à manger des collations, puis à partager avec les amis.
Oui, puis là, les petits amis, là, ils prennent le petit truc, là, ils tiennent chacun une petite corde, puis là, ils s'en vont au parc. Puis là,
ça,
ils te regardent avec leurs gros habits de neige trop gros, puis là, ils essayent de te faire salut, puis ils sont tout heureux.
Ils sont cute. Mais cela dit, moi, je trouve ça important qu'on ait ces débats-là. Mais je trouve que la conclusion de tout ça, c'est que, tu sais, quand tu veux faire des politiques sur la laïcité, veux pas, c'est divisif, c'est polarisant, c'est émotif, c'est pas facile. On va enlever des droits à des gens. M. Robert, je le disais dans sa citation en début de sujet. On a un nombre de cartouches limitées de division sociale, à mon avis. Puis la laïcité, c'est tellement important que moi, je pense qu'on doit agir avec tact, avec diplomatie et de manière très stratégique. Et pour moi, s'attaquer aux signes religieux dans les services de garde, les garderies, c'est une mauvaise priorité. Là, tantôt, tu disais, on va avoir une loi sur la laïcité, on va aller plus loin. Peut-être pas, parce que là, il va y avoir un nouveau chef à la CAQ, donc un nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre. Il va y avoir prorogation. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on ferme l'Assemblée nationale temporairement et tous les projets de loi meurent au feuilleton et on redépose les projets de loi. Et là, on va être très attentifs, nous qui suivons tout ça, pour regarder quels projets de loi vont disparaître définitivement.
Ouais, oui, il pourrait y avoir des amendements dans certains projets de loi, dont celui sur la laïcité. On pourrait finalement décider de retirer la mention des signes religieux pour les services de garde.
Exactement. Et je pense qu'on doit se garder de faire des comparaisons entre Bedford. On peut être choqué par ce qui s'est passé dans les écoles montréalaises, bien sûr. Mais de là à dire, ah ben là, il faut aller plus loin et sans aucune considération sur les contextes particuliers, je pense qu'on fait fausse route et que ça n'aide pas l'appui et l'acceptabilité aussi de la laïcité dans la population. Il faut agir intelligemment.
Antonine Iacarini, merci de nous ramener à l'équilibre. Ben, okay. C'est, non, mais c'est exactement ce que tu viens de faire avec le point pro-laïcité, mais en étant équilibré dans les conséquences de cette laïcité-là. Je t'en remercie infiniment.
On fait tous un effort pour en débattre de manière saine, puis voilà. On en jase, ben, c'est toujours le cas.
Le caucus avec Antonine Iaccarini, c'est du lundi au jeudi de midi à 12h30 à l'émission On en jase. D'ailleurs, à l'émission On en jase, dans un instant, Mathias Turcotte vient nous présenter ce qu'il s'est dit au point de presse de la Ville de Québec aujourd'hui, parce qu'on a fait un point de presse à 9h30 ce matin. C'était pas encore fini à 11h30, il y avait encore des questions des journalistes. On a fait un point de presse parce que ça allait bien dans la communication. Mais ça va tellement bien que ça fait 2 heures qu'on est en conférence de presse pour expliquer comment ça va bien puis comment on va changer les choses. Et parlant que ça aille bien, on va parler aussi avec Marie Langlois, directrice générale de la Société de développement commercial Montcalm. Pour ceux qui se demandent c'est où, René Lévesque, Avenue Cartier, ça fait partie de la Société de développement commercial Montcalm. Elle va nous raconter le bordel dans les communications avec la Ville de Québec. C'est à On en jase dans un instant sur Boulevard 102.1. Connaissez-vous Matériaux Odette Timbermark, entreprise familiale québécoise qui est à votre service pour vos petits grands projets de construction depuis 1946? Ah, même si la température n'est pas clémente, le printemps se pointe le bout du nez, lentement mais sûrement. Et qui dit printemps? Ah, puis si vous êtes avec une conjointe comme moi que vous aimez, mais qui a toujours mille et un projets dans la tête... Ben, vous allez avoir besoin de matériaux Odette Timbermark. Ça regroupe sous le même toit tous les matériaux et articles de quincaillerie pour réaliser vos projets de rénovation. Votre salle de bain est restée figée dans les années 90. Ouais, moi, je dirais que c'est dans les années 70 présentement. Vos planchers sont plus vieux que votre arrière-grand-mère. C'est le temps de passer chez Matériaux Odette Timbermark. Il fait encore frais dehors, mais chez vous, ça pourrait être beau. Bref, nouvelle salle de bain, plancher neuf, un petit coup de peinture avant le printemps. Profitez du froid pour rénover au chaud. Pas fou comme idée. C'est le temps de rénover avant l'été et nous avons du choix à la tonne pour vos matériaux de construction et de rénovation. Comment vous faites pour savoir ça? Ben, vous allez sur matériauxodette.ca. La livraison est flexible et rapide et on est votre complice depuis 1946.
T'as besoin...
Boulevard 101, l'émission On en jase, ton émission d'actualité du midi. On vient de faire un bloc plus politique que provincial avec Antonine Iaccarini. Là, on va se lancer dans un bloc local, politique municipale, travaux du tramway, dérangements pour les commerçants, les citoyens. C'est exactement ce que l'on va faire à l'émission On en jase. À la météo, c'est moins 2 degrés présentement, ce sera 2 degrés. Le maximum aujourd'hui, alternance soleil et nuages. Demain, moins 3, alternance de soleil et nuages aussi. Retour de la neige jeudi avec un maximum établi à moins 1 degré. Pascal, veux-tu me dire une affaire, là?
Dis-moi.
Puis là, on essaye de le rejoindre. Qu'est-ce que Stéphane Lachance faisait à sa côté de Maïté Blanchet-Vézina et Éric Duhaime? Il retourne-tu candidat pour les conservateurs?
J'avais l'air d'un enfant de 3 ans avec vous autres dans la pause. J'ai comme, les gars, écoutez-moi. Mais les non, gars, j'ai quelque chose à dire.
Qu'est-ce qui se passe, là?
Je sais pas, mais...
On va-tu parler de notre chef d'opposition?
Tu sais, automatiquement, moi, je fais ma revue de presse. Puis dans ma revue de presse, il y avait cette annonce où Maïté Blanchet-Vézina se joint officiellement au Parti conservateur pour les prochaines élections. Le flirt politique a résumé en une alliance entre Éric Duhaime et elle. Elle est actuellement indépendante. Elle va se présenter dans la Pelleterie, le comté de son ex-collègue Éric Kerr. Écoute, je regarde ça, puis je regarde les photos qui ont été prises. Il y a une photo claire. Moi, je me dis, probablement que le photographe du Soleil a fait exprès. Parce qu'en 13 ans de carrière, si t'as pas juste pris Maïté Blanchet-Vézina et Éric Duhaime dans ta photo,
ben
tu voulais que je vois c'est qui était à gauche.
C'est clair qu'il a fait exprès.
La personne qui est à gauche, c'est Stéphane Lachance, qui est à l'opposition ici à la Ville de Québec. Donc, il y a lui, il y a Maïté Blanchet-Vézina dans le centre et il y a Éric Duhaime. Peut-être qu'on fabule, mais ça reste que c'est une photo protocolaire officielle dans une annonce protocolaire et officielle qui allait être couverte par tous les médias, assurément.
Ben oui.
Si on voulait pas la présence de quelqu'un dans lequel on allait avoir quelques discussions en onde ou dans les médias, pourquoi il était là?
Exactement. Stéphane Lachance, qui avait été justement candidat pour le Parti conservateur, là, je suis en train de chercher dans quelle circonscription en 2022, je ne m'en rappelle plus par cœur. Mais bref, ça laisse place à beaucoup d'interprétations.
Puis tu sais,
que Stéphane
qu'il
Lachance
était bien
va terminer son mandat comme chef d'opposition. À respect citoyen?
Assurément, il était déçu. Je ne peux pas croire que lors du dernier scrutin municipal, il était très, très heureux de ça. Malgré tout, il faisait une job auprès de Bruno Marchand depuis le tout premier conseil municipal.
Ben oui.
Mathias est à nos côtés, va être capable de renchérir là-dessus. Mais il n'était pas dans un... Il n'était pas en mode pitbull là, depuis le début. Là. Peut-être parce qu'il se dit « Ah, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. »
Mais il faut que je précise, par contre, je dis le comté dans lequel Stéphane Lachance s'était présenté lors des dernières élections pour le Parti conservateur. C'est la Pelletrie.
Ah, fait que peut-être qu'il était là en tant qu'ancien candidat.
Ça se pourrait.
Ouais. Ça, c'est une meilleure hypothèse. Mais une chance, c'est là pour nous.
C'est pas étrange, malgré le fait qu'on se soit présenté, que maintenant on est à l'opposition officielle au municipal, d'avoir ces liens très proches là au point où on se présente dans une annonce.
Mais tu as raison.
Ça, c'est juste une analyse comme ça, brouillon.
Normalement, on devrait se garder...
Une petite gêne.
Oui, exactement. Tu sais, rencontrer les gens de tous les partis politiques, mais pas nécessairement aller à un rassemblement
parce
politique.
Parce qu'il n'avait pas été élu. Donc, c'est pas une passation de candidature.
Oui, en effet. C'est pas une passation du pouvoir, là, comme dans les faits. Non, c'est vrai. Tu as raison. C'est un bon point que tu amènes.
On poserait question à M. Lachance.
Non, mais c'est particulier, ça, je suis d'accord, mais... Au moins, là, j'ai envie de dire qu'il y a un petit lien à faire. Là. Avant, c'était juste vraiment bizarre, puis c'était comme crime, il va-tu se présenter?
C'est ça.
Là, oui, c'est bizarre parce qu'il est à l'opposition de la Ville de Québec, puis il n'y a pas nécessairement à prendre parti pour un parti politique provincial.
Yes.
Mais au moins, on peut faire le lien que c'était l'ancien candidat du parti dans la Pelletrie.
Sinon, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité, Pascal?
Ouais, c'est sûrement été Blanchette Vézina vole le show avec son alliance avec les conservateurs pour les prochaines élections. Mais un autre dossier très chaud ici à Québec, c'est le tramway. Chantier du tramway, le bilan est positif, mais on dit qu'il y a un chaos inévitable. Et le chaos semble un peu moins contrôlé que ce qui en a l'air, ou du moins de ce qui en est discuté par le maire de Québec, Bruno Marchand. On dresse un bilan positif du début du méga chantier du tramway. Vous savez, dès la fin de semaine dernière, on a commencé à revoir les parcours d'autobus. On a fait des sens uniques avec certaines rues. Il y a des constructions qui ont commencé. On dirait que c'est une transition vers les vraiment très gros travaux. Mais c'est particulier. Il y a du mécontentement. Il y a des gens qui n'ont pas trop compris. Il y a de la confusion. Par contre, pour l'administration Marchand, tout se passe bien. Même s'il y aura des journées de chaos pendant les travaux, c'est comme si c'était prévu, puis c'est comme ça, puis on a un bon départ. On va en parler avec Mathias Turcotte dans quelques instants. Gilles Laulier, ancien maire de Lévis, a été approché dans les dernières semaines par le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard. C'est ce qui a pris le soleil. Il confirme avoir rencontré M. Laulier il y a 2 ou 3 semaines. Mais par contre, il dit que ce n'est pas une rencontre informelle précise et on n'a donné aucune offre en vue des prochaines élections à M. Laulier. Le Parti québécois a forcé l'abandon d'un projet pilote pour faciliter le vote des itinérants. C'est ce qui a pris le soleil. Donc, on peut lire que le projet pilote d'élection Québec visait à installer des bureaux de scrutin directement dans les organismes communautaires. Et ça, c'était pour augmenter la participation électorale des personnes itinérantes. Dans la proposition, on dit même que si elles ont droit au vote, elles n'ont pas nécessairement les ressources pour se rendre jusqu'au bureau des directeurs de scrutin. Alors, la DG du PQ mentionne que le projet déposé par le DGEQ posait des risques pour l'intégrité du processus électoral. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, va un peu dans la même veine que Bernard Drainville, qui est candidat dans la chefferie du parti de la CAQ, parce qu'on veut s'attaquer à la construction. Une offensive qui va mener à un gouvernement du Parti québécois à diminuer les coûts de construction au Québec. Ils sont en avance dans les sondages. Peut-être que ce sera quelque chose de fort gros et un point chaud des prochaines élections provinciales. Mais le Parti québécois dénonce les coûts de construction. Ils disent que c'est anormalement élevé au Québec. On pointe un manque de concurrence, un manque de constance, de fiabilité. Et on dit que le gouvernement, comme donneur d'ouvrage, se doit de voir le fardeau réglementaire qui est trop lourd en ce moment. Le gouvernement du Québec doit déposer aussi un projet de loi qui vise à moderniser la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Et c'est Radio-Canada qui est arrivé avec cette nouvelle-là un peu plus tôt. Les ministres de la Santé Sonia Bélanger et de la Justice Simon-Jolin Barrette tiennent une conférence de presse conjointe cet après-midi à ce sujet-là. Des sources de Radio-Canada indiquent que la volonté du gouvernement, c'est de permettre aux autorités comme les policiers d'intervenir en prévention avant que les drames se produisent.
Merci beaucoup, Pascal. Maïté Blanchette-Vézina sera en studio avec nous demain à midi, justement, pour parler du fait qu'elle est maintenant rendue au Parti conservateur du Québec et qu'elle se présentera dans la Pelletrie. Mais en attendant, le gros dossier du jour, c'est les travaux qui entourent le tramway. On a le collègue Mathias Turcotte avec nous. Mathias, conférence de presse ce matin, pratiquement interminable. C'est-tu signe qu'on communique pas si bien que ça du côté de la ville de Québec?
Je pense pas. Je pense que c'est signe que les journalistes font leur travail. Ouais, par contre, c'est toujours ça. Là. Honnêtement, les conférences de presse au municipal à Québec sont beaucoup plus longues que n'importe quelle autre conférence.
Je salue le travail de tous les journalistes sur le beat de la politique municipale, que ce soit Thème Moala et Stéphanie Marton, Journal de Québec, Émilie Pelletier du côté du Soleil, et également là, nos collègues de Radio-Canada et TVA. Là, tout le monde fait un travail exceptionnel.
Puis pour vrai, moi, je vois ça d'un œil positif. C'est très rare des élus, que ce soit municipaux, provinciaux ou fédéraux, qui vont donner une heure et demie de leur temps dans la journée à répondre aux questions.
En effet.
Vraiment toutes les questions, là.
T'as entièrement raison.
Donc, justement, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est des mises à jour sur des chantiers à venir qu'on avait déjà annoncés et de nouveaux chantiers qui vont arriver au cours des prochains mois. Donc, on sait, il y a de cela un mois, on avait un mois pile, on avait eu un point de presse sur les chantiers à venir à l'ouest. Cette fois-ci, on a parlé un peu plus des chantiers à l'est sans nécessairement parler du gros morceau qui est tous des travaux sur René Lévesque.
Est-ce que Stéphane Lachance était au point de presse?
Stéphane Lachance...
Il est occupé avec Maïté Blanchette-Vézina.
Puis Éric Duhaime.
Ouais, c'est ça.
Stéphane Lachance n'assiste pas au point de presse habituellement, mais non, on n'a pas eu de réaction d'opposition à la suite du point de presse.
Mettons que c'est... C'est un ballon échappé de Stéphane Lachance.
Donc, pour ce qui est nouveau, justement, on a annoncé qu'un lien temporaire dans le secteur qui va relier Gérard, Morisset et de Vimy dans le secteur de Hauteville, un lien entre les deux autoroutiers, dans le fond, va être construit. Ça s'en vient début juin, normalement, ce qui est attendu pour le début des travaux. Aussi, double sens de la rue Dorchester, des travaux qui devraient débuter début juin également, avec la démolition de la passerelle Pouliot, justement pour ces travaux-là. Ce qu'on dit du côté de la Ville de Québec, c'est qu'on a créé un passage piéton sécurisé déjà
Parfait.
En prévision de la démolition de cette passerelle-là, puis que la rue Dorchester va devoir devenir à double sens avant le début des travaux sur la rue de la Couronne pour faciliter les transitions.
Le RTC fait beaucoup jaser en fin de semaine. Des autobus articulés qui avaient de la misère à circuler dans le coin du Grand Théâtre. Un chul qui n'était pas bien desservi selon les usagers. Est-ce qu'on a parlé de ceci?
Oui, bien sûr. Là, c'est le début des premiers changements sur tout ce qui est réseau routier à Québec qu'on a vu. On a eu aussi un problème de synchronisation des lumières sur Hochelaga. Bon,
ouais.
On a eu des difficultés dans le Grand Théâtre. Pourtant, on nous dit que tout se passe bien jusqu'à maintenant du côté David durant la conférence de presse d'aujourd'hui. La question a été posée au maire. Est-ce qu'il y a un décalage entre ce qu'on présente, ce qu'on voit du côté David puis ce qui est vécu sur le terrain? Voici sa réponse.
Non. On vous a précisé qu'est-ce qui est arrivé sur Hochelaga, sur quoi on travaillait. On vous a précisé ce qui est arrivé dans le secteur du Grand Théâtre, sur quoi on a travaillé, ce qu'on a déjà corrigé. On travaille sur 19 kilomètres. On travaille sur 50 parcours d'autobus transformés et qui dépassent bien largement les 19 kilomètres parce qu'on travaille sur des parcours qui prennent des gens d'ailleurs et les amènent vers ces endroits-là qui ont des entraves. Globalement, ce qu'on vous dit, puis on vous présente un portrait authentique, honnête, ça va bien. Est-ce que vous pouvez trouver des endroits où on a des choses à améliorer? Oui, on vous les nomme. On vous les nomme de façon très, très candide, très transparente. On va continuer de les améliorer.
Ça va bien. Je lance un défi au maire. Allez devant le CHUL demain matin puis revenez en onde pour me dire si ça va bien. Faites ça. Ça va bien. Hey, on gère 19 km. Comme si c'était la première ville à gérer 19 km de travaux.
Non,
ça n'a pas de sens.
Effectivement, puis il y a des points faibles. Tu as parlé du CHUL, on va y revenir dans quelques instants. Avant ça, peut-être certains auditeurs même ont reçu des amendes dans le secteur du Grand Théâtre.
180$ d'amende quand on vient de changer la signalisation. C'est un échappé majeur, ça.
Oui, bien, honnêtement, oui. Ce qu'on dit du côté d'Avis, c'est tout ce qui a été remis par le service de police. On n'enlève rien de tout ça. Ces amendes-là restent là. Par contre, on a annoncé qu'on révisait certains constats d'infraction pour des parkings qui ont été remis. C'est Marc Desrivières, directeur service de transport et de la mobilité intelligente à Québec, qui a dit que lui, présentement, il y a 9 amendes qui ont été remises pour des parkings qu'il va amener justement à faire une demande au procureur de la Cour pour qu'il soit révisé. Puis, il donne l'exemple d'un de ces constats-là, pourquoi il fait cette démarche-là.
Et dans ce cas-là, c'était très, très simple. Le citoyen s'est stationné dans un endroit qui était une zone pour résidents le soir. Le lendemain matin, très tôt, les équipes sont venues remplacer la signalisation pour dire que ça devenait du stationnement interdit. Ah. Monsieur était toujours là.
Ça fait piège.
L'agent est passé quelques heures après, il a vu le panneau, il a vu monsieur, puis il a dit « je mets un constat ». Et le délai était, à mon avis, inacceptable. Et je suis convaincu, je suis en mesure de convaincre le procureur que c'était effectivement inacceptable.
J'espère qu'il va comprendre.
Oui, mais c'est ça quand on dit que tout était bien planifié. T'sais, c'est un autre exemple de manque de planification. Puis je veux pas trop frapper sur le clou, là, puis je veux pas être trop critique, mais c'est un bel exemple. Et vois-tu, quand on parle d'Hochelaga, texto qui vient de rentrer, continue nos textos 418-971-1021. Je viens de prendre Hochelaga, la lumière au coin Jean-Dequin, place de la Cité, permet de laisser passer 6 autos maximum. Donc, c'est pas encore réglé.
Non, non. Ça, de ce côté-là, on dit que c'est en train d'être réglé.
Ça va prendre combien de temps?
Puis on a expliqué que l'une des choses sur Hochelaga qui avait créé des problèmes, c'est qu'on a rajouté 7 secondes pour le passage de piétons, ouais, étant donné qu'on a plus d'autobus. Que ce 7 secondes-là a tout brisé la synchronisation des lumières qu'on avait déjà fait.
Normalement, tu serais censé être capable de le faire avant d'arriver dans les travaux.
Effectivement, puis pour ce qui est des constats d'infraction, pourquoi on n'a pas averti nos équipes? Hey, cette rue-là,
exactement,
rue-là, on donne pas d'amende aujourd'hui.
Donc, c'est là qu'on voit que la planification n'a pas été réussie du côté de la Ville de Québec, quoi qu'en dise Bruno Marchand.
Secteur du CHUL, on parle de complications, de personnes à mobilité réduite qui vont avoir de la difficulté à se rendre au s'ils prennent justement le transport en commun. C'est Valérie Drolet, directrice exécutive du développement du réseau, qui a quand même tenu à expliquer ce qui était en place actuellement et ce qui va peut-être être changé.
C'est pourquoi, entre autres, nous avons créé le parcours 12 qui circule à proximité du CHUL via la route de l'église et qui approche notre clientèle environ à 250 mètres. Les parcours 804, 805, en plus d'offrir une correspondance avec le parcours 12, ont également un arrêt à proximité du CHUL sur Hochelaga. On vous disait qu'on est en mode agile, donc on travaille déjà à modifier le parcours 12 pour le rapprocher davantage du CHUL et bonifier sa fréquence dès juin prochain.
C'est une autre problématique de planification. Tu desserres le CHUL. C'est sûr que tu as des personnes à mobilité réduite. C'est sûr que tu as des personnes malades. C'est sûr que tu as des jeunes enfants. C'est sûr que tu as des personnes aînées. Comment ça, tu réalises quand ça commence que c'est trop loin ton arrêt avec le CHUL?
Puis plus loin que ça, c'est un nouveau trajet. Le 12, c'est un parcours qui n'existait pas. Fait que le parcours 12 existe depuis samedi. On est mardi. On dit 4 jours après,
ouais,
on va le modifier. Pourquoi ça n'a pas été fait avant?
Je vais te donner un exemple. Moi, au RTC, j'ai géré la transformation du parcours 60 au parcours 803. Okay? Le 60 passait devant le centre de service du RTC sur la rue des Rocailles. Le 803 faisait le Bourgneuf full pin parce que c'est un métrobus, il faut que ça aille vite. Mais on a rajouté un parcours 61 parce qu'on n'avait pas le choix de desservir le centre de service du RTC. On a un centre de service pour que les clients aient acheté de la carte opus, les étudiants, ouais, tout le kit. Bon. On n'a pas droppé le monde à trois coins de rue du centre de service. On les a droppés en avant.
Puis je comprends toute la difficulté que représentent tes travaux et tout, mais si présentement, ils évaluent des solutions pour le rapprocher, ces solutions-là, excusez-moi, ils auraient dû être évalués avant. Je veux juste terminer en rappelant rapidement les,
oui,
travaux, puis en précisant un autre travaux, mais qui va durer juste une semaine. En gros, boulevard René-Lévesque, juste vous avertir, à hauteur de Avenue Cartier, la semaine du 13 avril, le transit va être fermé. Donc, René-Lévesque, à cette hauteur-là, ça va être fermé, donc ça va se faire par Grande Allée. Ça va être un méchant beau test pour la circulation à venir, parce que je vous rappelle que Grande Allée, présentement, il y a une voie réservée. Fait qu'on a perdu une voie de circulation
en
sur Grande Allée. Une fois que René-Lévesque va être bouché puis que toutes les voitures vont aller sur Grande Allée, ça va ressembler à quoi, la circulation durant la semaine du 13 avril?
Très difficile.
J'ai bien hâte de voir. Également, vous rappelez que Boulevard Laurier, c'est deux voies de chaque bord présentement, là, dans le secteur des travaux. Mm-hmm. C'est depuis 7 semaines. Également, Boulevard des Quatre Bourgeois, c'est fin avril que ça devrait commencer entre Pidouze et Duplessis.
Mathias Turcotte, merci infiniment. Tu fais toujours un excellent travail sur le terrain et on se reparle cette semaine avec d'autres conférences de presse auxquelles tu assisteras ou des dossiers, je le rappelle, citoyen à commercial blvd.fm. Le chum Mathias Turcotte va se faire un plaisir de fouiller les dossiers que vous allez lui envoyer.
Bonne journée.
Merci. À Boulevard. L'émission Mangeance qui se poursuit. On vient de se rendre compte que la planification Pascal et la communication pour ce qui est de notre transport en commun et des différents travaux a été déficient.
J'ai beaucoup aimé la clip de Mathias. C'est la réponse du maire Bruno Marchand quand il pose la question « Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre ce que vous croyez et la réalité sur le terrain? » Puis il dit non. Je la trouve parlante.
Ben moi aussi.
Parce que sinon, on n'entendrait pas ça du terrain. Puis même s'il y a une vingtaine, une cinquantaine de personnes sur un millier de personnes qui ont une difficulté ou qu'elle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué correctement. Ou il y a quelque chose qui a été fait dans une confusion. Puis ça, là, si déjà on ne donne pas d'importance à ça, quand ça va être beaucoup plus complexe, ça va être sincèrement difficile.
Ben oui, parce qu'on s'en va vers de la complexité. Là, on est dans la simplicité des travaux.
On devrait prendre chaque petite chose qui ne fonctionne pas super bien puis vouloir la colmater, la régler pour s'assurer que le moins possible de désagréments s'en viennent.
Elle m'a écrit hier par texto, Marie Langlois, directrice générale de la Société de développement commercial, en me disant « Ouais, Jeff, tu sais quoi? La communication des travaux du tramway avec les commerçants, c'était le bordel. » On a la chance de lui parler au bout du fil. Madame Langlois, comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va très bien. Expliquez-nous le bordel que vous avez vécu en ce premier week-end de travaux.
Ben, écoutez, nous, on est quand même dans les pré-travaux du tramway depuis le mois de décembre. Donc, Montcalm vit les travaux du tramway et puis on est supposé être averti avant qu'il y ait des travaux pour avertir nos commerçants. Et bon, hier, ce qui a fait exploser, c'est parce que hier matin, il y a un commerçant qui m'appelle, me dit « Mais écoute, on n'est pas capable de se rendre à mon stationnement. Ils sont sur la rue Crémazie. On comprend pas. C'était pas. Vous nous avez pas averti. » Et je n'ai pas été averti. J'ai été averti une fois que les travaux ont commencé. Depuis ce temps-là, c'est sûr que pour nous autres, ça n'a aucun sens parce que c'est des commerces qui ont besoin de leur stationnement parce qu'ils ont une clientèle qui les visite. Nous, on est là-dedans, puis on essaie de communiquer avec tous nos membres, puis on réussit pas à avoir l'information rapidement. Quand je lis dans les journaux là que bon, il y a des commerçants qui sont fâchés parce qu'ils ont 3 jours d'avance des informations, moi c'est souvent 24 heures ou 12 heures avant les travaux.
Fait que c'est pas du tout 3 jours d'avance. Vous arrivez à vos commerces, puis bang, le mal est fait.
C'est ça. Puis des fois, on a l'information le vendredi après-midi pour le lundi matin.
Avez-vous une certaine compréhension du pourquoi ça arrive le vendredi? Quand vous la recevez, cette information-là, puis vous l'analysez, vous dites « Ouais, j'avoue, ils ne pouvaient pas nous l'envoyer avant » ou au contraire, vous êtes plus « Ben voyons donc, c'est à la dernière minute comme ça qu'on reçoit l'info? »
On reçoit vraiment l'info à la dernière minute. Nous, on essaie j'essaie de leur faire comprendre qu'eux vont dire, admettons, comme hier, ils ont dit « Ah, ça touchait pas ou peu de commerçants. » Puis là, j'ai de la misère à me faire comprendre pour leur dire « Peu importe c'est où, ça touche tous mes commerçants. » Parce qu'à partir du moment où c'est annoncé que c'est compliqué, ça rentre sur la rue Crémazie, là, les commerçants qui sont sur le quartier, il y a des clients qui les appellent. « Je peux-tu me rendre? » »« Oui, oui, tu peux te rendre. » Ceux qui ont déjà des rendez-vous, qui appellent leurs clients, « Est-ce que je peux me rendre à mon stationnement? » »« Oui, oui, il n'y a pas de problème. » Fait que les gens ont besoin d'être avertis, au moins 3 à 4 jours avant, minimum, pour donner l'information à leurs clients.
Oui. Madame Langlois, est-ce que les clients sont mécontents? Est-ce qu'il y en a qui disent « Je ne reviendrai plus te voir parce que ça va être trop difficile? »
Les commerces travaillent fort à rassurer leur clientèle, travaillent fort aussi pour ceux qui prennent des rendez-vous comme un physiothérapeute ou un autre service comme ça. Ils vont les rappeler, leur dire « Oui, oui, inquiétez-vous pas, vous avez votre rendez-vous, inquiétez-vous pas, ça se rend au stationnement comme d'habitude. » Ils sont obligés de faire ce travail-là. Ce qu'on commence à me dire, c'est les commerçants qui disent « Ouais, on est averti quelques jours d'avance quand c'est quelques jours d'avance. Puis c'est juste les pré-travaux du tramway. On parle même pas du changement de transport des autobus. Là. Non, je vous parle juste des pré-travaux qui durent entre 2 et 5 jours.
C'est ce que Pascal nous amenait tout à l'heure dans la discussion en disant « Hey, on est juste dans une petite phase facile, là, la simplicité, là. » Imaginez quand ça va être complexe.
Puis on devrait prendre chacun des problèmes à cœur, puis on devrait tenter de les colmater rapidement parce que c'est pas ces détails-là, si ce sont des détails, qui seront priorisés une fois que les gros travaux entreront en vigueur. Mais le problème est que chaque petit détail va mener à des dommages collatéraux importants. Puis ils ont le temps, là, en ce moment, de le faire. Mm-hmm. Ça commence, ils ont le temps de travailler là-dessus. Est-ce que vous comprenez pourquoi on le fait pas de cette manière-là? Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui les empêche?
Bon, moi, ce que j'en comprends, bon, hier, c'est sûr qu'on m'a rappelé, on s'excuse, on est en train de chercher pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est parce que dans la tête des gens d'Infotravaux, ceux qui envoient les communications, c'est qu'à partir du moment où c'est sur le coin de Crémazie, ça l'a béré, il n'y a pas beaucoup de commerce dans ce coin-là, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et comme je vous dis, ça a un impact jusque sur Grande Allée, parce que les gens se demandent par où passer, puis à partir du moment où ils se demandent par où passer, ben ils viendront pas. Oh, ben ils vont aller ailleurs ou ils vont annuler leur rendez-vous. Puis ça, je suis pas capable de passer ce message-là au bureau de projet. Je suis pas capable de passer ce message-là non plus à tous ceux qui nous passent les communications. Eux, j'imagine qu'ils nous envoient rapidement quand ils ont l'information. Au niveau des communications, la personne qui diffuse, qui m'envoie. Mais c'est quand même pas normal que ces travaux-là sont quand même prévus depuis longtemps. Si c'était pas prévu depuis longtemps, pourquoi c'est commencé, là? Pourquoi on est aussi pressé pour, après ça, dire, l'entrepreneur n'est pas encore choisi. Mais voyons, pourquoi on a commencé dans ce cas-là?
En effet, vous avez tellement raison. Il y a une chaîne d'action et de communication qui devrait être faite qui n'est pas du tout respectée. Dernière question pour vous, Marie Langlois, directrice générale de la Société de développement commercial de Montcalm. Jean-Luc Lavoie est le conseiller municipal responsable de la communication auprès des commerçants à Québec. Oui. Il était en Alberta toute la semaine dernière pour apprendre comment communiquer. Est-ce que vous l'avez vu depuis ce temps-là parce qu'il dit qu'il a fait du terrain?
Non, nous, on ne l'a pas vu encore. On le rencontre, je crois, le conseil d'administration au mois d'avril. Mais non, on ne l'a pas vu encore.
OK, ça va aller au mois d'avril la prochaine fois que vous allez le rencontrer.
La première fois.
Ça va être la première fois que vous allez le rencontrer au mois d'avril?
Oui.
OK, donc il est responsable des communications, mais il ne vous a pas rencontré.
Non, pas encore. Il a communiqué avec moi. Heureusement, moi, j'ai une conseillère, Mélissa Coulombe-Leduc, qui, aussitôt que j'ai un petit problème, que je la mets dans ma boucle de mes courriels, elle réagit.
OK.
Et elle avait réagi rapidement pour lui envoyer le courriel que j'avais envoyé, puis c'est là qu'il a rentré en contact avec moi. Okay. Mais c'est vraiment parce que la conseillère qui a fait son travail, là, qui a réagi rapidement.
Donc, on va souhaiter qu'en Alberta, il ait vraiment appéri une bonne façon de communiquer. Madame Langlois, merci beaucoup pour votre temps que vous nous avez accordé aujourd'hui à l'émission d'En Jase. Tenez-moi au courant des développements, puis on est avec vous, les commerçants, puis on va continuer à pousser fort sur l'administration pour que vous ayez un meilleur service.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Au revoir. Marie Langlois, directrice générale de la Société de développement commercial de Montcalm. Jean-Luc Lavoie, qui les a jamais rencontrés. C'est le responsable des communications.
Puis le fait que le maire réponde pas à ces problématiques-là, parce qu'elle a dit...
Ben oui.
Il manque des têtes, là, dirigeantes dans le dit projet, puis le projet est déjà commencé.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on se pose encore les questions en ondes? As-tu... Je cherche dans ma tête, là, depuis au moins 2-3 minutes, là. Y a-t-il un moment où Bruno Marchand a répondu à ça, puis j'ai pas été consciente?
Non, Bruno Marchand dit toujours, il faut communiquer mieux. Ouais, je leur ai dit de pas attendre 2-3 jours avant. Mais là, c'est pas 2-3 jours avant, c'est le matin
mais
même.
À la question, pourquoi on est aussi confus, puis pourquoi est-ce que ça perdure, là? Pourquoi est-ce qu'il y a des commerçants qui nous appellent, qui nous écrivent?
Ouais, on dit ce qu'il y a des. Se cache toujours derrière des modifications de dernière minute, mais c'est pas vrai qu'il y a toujours des modifications de dernière minute dans un plan de travail. Tu sais, je veux dire, c'est un échéancier, c'est un plan de travail. J'ouvre telle rue, telle date. J'ouvre tel trottoir, telle date.
Il n'a jamais pris la parole en disant, puis peut-être que je me trompe, là, c'est pour ça que je te questionne aussi. Il n'a jamais pris la parole en disant, on le sait que ça semble un peu chaotique en ce moment.
Non, il défend.
Se l'est en partie.
Non, il défend juste l'administration. Prend pas à part des citoyens ou des commerçants. C'est ça notre maire présentement. Il défend son organisation. Ça vous dit quoi? 418-971-1021 réagissez par texto. Dans un instant, Boulevard 101, Rémi Villemur, sa chronique. Premièrement, on va lui souhaiter bonne fête.
Le jubilé, toi.
Yes! Puis deuxièmement, il va nous parler de Desjardins, de ce nouvel affichage de solde de carte de crédit. Fait pas l'affaire de personne. Puis Desjardins, en bonne coopérative, ils répondent, comme le maire Marchand, aux besoins de leur clientèle. Vous êtes à l'émission d'En jase sur Boulevard 101.
Rapide et garantie. Économisez sur vos factures d'énergie et profitez de subventions pouvant réduire vos coûts d'achat. Subventions admissibles, renseignez-vous chez miville.ca. Mouvert et Miville Climatisation Chauffage, le duo gagnant pour votre maison.
Depuis 60 ans, Silencieux Gosselin privilégie la réparation avant le remplacement pour une solution économique et fiable. On est les spécialistes des systèmes d'échappement d'automobiles, de camions lourds et des systèmes DPF. Prenez rendez-vous dès maintenant au silencieuxgosselin.ca.
Osez vous perdre dans le bleu infini. Ralentir pour mieux découvrir. Sentez-vous libre, vraiment libre. Les îles de Guadeloupe, ça se prend bien. Disponible en vol direct de Québec.
Moreau PRS célèbre 40 ans d'expertise. Entreprise familiale et fier distributeur Sunspace Sunrooms. Moreau PRS vous offre des patios, rampes et solariums 100% canadiens. Moreau PRS, des produits faits sur mesure, durables et conçus pour résister aux conditions extrêmes.
Pour un véhicule d'occasion certifié Subaru, inutile de chercher. Lévis Subaru est la référence à Lévis. Venez choisir le vôtre et profitez d'un taux d'intérêt à partir de 3,99%. Qualité, fiabilité et tranquillité d'esprit vous attendent chez Lévis Subaru.
C'était LévisSubaru.com.
Le point de Max.
Oh que oui, c'est Max. Chaque jour de semaine, 10h, on suit l'évolution des gros dossiers d'actualité du jour. On jase de sport, puis on a du fun. Viens faire un tour.
Le point de Max.
Vivez le monde plus souvent avec un abonnement au Musée de la civilisation. Rentabilisez dès la deuxième visite. Accès illimité aux expositions et activités, invitations exclusives et rabais privilèges. Abonnez-vous sur mcq.org.
Vous déménagez bientôt? Simplifiez-vous la vie avec Soumission Déménageur. Un seul formulaire vous permet de comparer gratuitement jusqu'à 5 prix de compagnies de déménagement fiables et certifiées. Rapide, simple et partout au Québec. Soumission Déménageur, plus de 150 entreprises à votre service.
C'est le lunch chanceux de Subway, où on gagne chaque jour de la semaine. Et qu'est-ce qu'on gagne? Allons voir!
C'est le repas du jour Subway à seulement 8,99 $. Un sandwich 6 pouces, une boisson et des croustilles ou deux biscuits. Savoure un sandwich différent chaque jour, comme le pizza sub gratiné le lundi, un combiné de viande froide le mercredi, ou même un poulet teriyaki aux oignons doux le dimanche.
Exact! 7 jours, 7 repas, 8,99 $ chacun. Les repas du jour Subway. Un bon lunch, c'est pas une question de chance.
Le prix et la participation peuvent varier. Extra, boisson, bouteille, taxes et frais de livraison
en
dessous.
Je connais du monde en paysagement ou en excavation ou même des agriculteurs que ça fait des années qu'ils veulent avoir de l'équipement de construction John Deere, mais ils remettent toujours ça à l'année prochaine. Si vous êtes comme ça, vous autres aussi, on a une bonne nouvelle. Grâce à l'événement VIP pour les équipements de construction compact John Deere, il y a des rabais et plein d'options de financement. Arrête d'hésiter puis vis le présent. C'est le temps là, pas demain ni l'année prochaine. Parce que l'événement VIP de JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, c'est du 23 au 27 mars. Pour plus de détails, va sur jldlagu.com.
Allô, c'est Marie de l'entrepôt de la Réno. Une salle de bain complète pour moins de 2 000 $, chez nous, c'est possible. Passez vous inspirer de notre nouveau showroom avec nos salles de bain modèles. 9030 John Simon, sortie Chauveau sur Henri IV. Entrepôtdelaréno.com.
Le printemps arrive et les routes vous attendent. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, profitez de 90 jours avant votre premier paiement sur le financement de votre prochain Volkswagen neuf. Une offre applicable sur tous nos modèles. Que vous cherchiez un VUS spacieux, une berline confortable ou simplement un véhicule pour vos déplacements quotidiens, vous trouverez le modèle parfait parmi notre large inventaire disponible pour livraison dès maintenant. C'est le moment idéal pour passer au volant d'un nouveau Volkswagen. Volkswagen Saint-Nicolas, passez nous voir aujourd'hui et choisissez le vôtre.
Boulevard.
Boulevard.
Te t'y informé.
102.1.
Toute la semaine. Partout.
Demain, Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard. 102.1.
T'as pas entendu la façon spéciale que la Ville de Québec communique avec ses citoyens, les usagers du RTC ainsi que les commerçants pour le début de ces travaux du tramway qui vont être très simples par rapport à ce qui va se faire plus tard. Eh bien, c'est sur le blvd.fm que tu peux aller réécouter le tout. D'ailleurs, texto très intéressant au 418-971-1021. Excusez-moi, je suis contre-maître en aqueduc pour la Ville de Québec. Il était averti depuis une semaine et demie que tout le monde avait accès à la rue Crémazie par l'autre bout de la rue Turnbull. Donc, dans le fond, les gens à l'interne, à la ville, là, ils savent. Mais l'information ne se rend pas. L'information ne se rend pas au commerçant.
À la personne qui peut rester anonyme là, avec bonheur, pourquoi ça ne se rend pas une fois que tout le monde est au courant? Avez-vous des suppositions?
Ouais, peut-être que c'est des problèmes de communication à l'interne, comme le prochain problème de communication qu'on va parler, c'est-à-dire la caisse Desjardins et sa nouvelle façon d'afficher le solde de nos cartes de crédit sur Accéder. Ça en a fait sacrer plus d'un, puis ça a mis le fêté Rémi Villemur, qui fête ses 32 ans, un jour plus tard que Pascal CV, en beau temps, comme il m'a écrit. Rémi Villemur, premièrement, bonne fête, mon animateur au 99.5 Montréal.
Bonne fête!
Du lundi au jeudi, de 18h à 19h, et les week-ends, le samedi, de 8h à 10h.
Vous êtes fin, merci beaucoup, mais je rassure nos auditeurs, ça n'a pas réussi à me faire passer un mauvais avant-midi, cette affaire-là, là, quand même. Mais l'autre jour, quand j'ai fait mes commissions le samedi après l'émission, puis que j'ai dépensé plusieurs centaines de dollars, puis que je suis arrivé chez nous, puis que j'ai fait un petit tour sur Accéder, et que je me suis rendu compte que ça n'avait pas été facturé, enfin, c'était pas inscrit au sol, je me disais, il y a une erreur. Et là, par la suite, j'ai vu le message qu'ils affichaient en disant « c'est notre nouvelle façon de procéder ». Puis là, je me disais, j'ai comme le feeling que ça va mal virer, cette affaire-là, parce que je ne peux pas être le seul qui trouve ça complètement épais. Et là, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il y ait un tollé, qu'il y ait une pétition qui circule, 9000 signatures jusqu'à présent, qu'il y ait des gens qui aient pris la parole sur TikTok, que ça ait monté à plusieurs dizaines de milliers de vues. Et je trouve la réponse de Desjardins vraiment pas satisfaisante. On nous dit quoi? On nous dit on a un nouveau système, ça fonctionne comme ça. Ben, premièrement, ça ne doit pas être vrai, parce que si ça fonctionnait toujours comme ça, ben, il y aurait les clients de toutes les banques en ce moment qui font des affaires au Québec qui seraient au même endroit en train de dire la même affaire. Donc, il y a juste Desjardins. Non, mais il y a juste Desjardins qui fait affaire avec un système, puis que c'est. Il y a juste Desjardins qui nous dit qu'il n'y a pas d'autre choix.
Oui, mais Rémi, comprends-les, ils ont copié le gouvernement fédéral avec ses excellents systèmes de Phoenix, Curam, etc.
Mais c'est vrai, ils ont dit on peut même pas retourner en arrière. Impossible, faut que vous vous habituez.
Ça fait aucun sens.
Pour une entreprise privée, c'est quand même surprenant.
Ben oui. Oui, mais attendez. Alors là, ça, c'est intéressant, ça, parce qu'on nous dit on peut pas revenir en arrière. Donc ça, ce qu'il faut lire, c'est on a foiré. Et effectivement, le foirage va jusqu'au point où on peut pas revenir en arrière. Mais à la base, je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui était assis autour d'une table, ou alors c'était en télétravail, puis vous connaissez mon amour pour ce genre de façon de travailler. Il y a quelqu'un qui a dû dire, bon, alors là, nos clients, quand ils utilisent leur carte, ça s'inscrit automatiquement sur leur solde qu'ils ont dépensé de l'argent. Ce n'est pas encore facturé, mais c'est autorisé non facturé. Moi, je pense qu'on devrait reculer. On devrait faire en sorte que ça ne soit plus inscrit. Là, mais nos clients... il y a deux semaines, là, chez Desjardins, lorsqu'ils payent leur solde de carte de crédit, mettons qu'ils doivent 1 000 $ puis qu'ils payent 1 000 $, ça tombe à zéro. J'ai une idée, moi. Ça ne tombera pas à zéro. Il va falloir attendre 2 jours avant que ça tombe. Qui a eu cette idée complètement nononne?
Hey, je me suis mis à réfléchir, Rémi. Je me suis demandé, dans le moment où toi, tu déposes de l'argent sur ta carte de crédit puis tu dis « je veux voir le solde se mettre à jour », est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui mettaient de l'argent, finalement, c'était un chèque qui n'était pas passé, puis là, il l'a mis sur sa carte de crédit, puis là, ça cause des problèmes, puis c'est pour être sûr que les transactions ont été approuvées, ont été faites. C'est mon gros point d'interrogation. Puis dans le cas contraire, qui est « je paye quelque chose », puis ça prend 48 heures ou 24 heures avant que je vois que j'ai dépensé cet argent-là. Puis ça peut, tu sais, mettre dans la marde bien du monde quand tu y penses. C'est les commentaires qu'on voyait. Est-ce que c'est parce qu'il y en a qui préautorisaient un service, comme quand tu vas à l'hôtel, tu fais un dépôt, puis finalement, c'est jamais pris de ta carte, puis là, ça causait bien des problèmes? Mais tu sais, si tu te bases sur ces deux situations-là, tu vas pas loin dans la vie, là?
Oui, d'autant plus que ces deux situations-là, moi, je veux bien croire qu'elles existent, mais elles doivent représenter ou affecter une minorité d'utilisateurs. Je pense que la majorité des utilisateurs des services de Desjardins sont des personnes honnêtes, là, quand même. Donc, il ne faut pas les pénaliser parce que ça simplifie la tâche à Desjardins de faire affaire avec les fraudeurs. Moi, j'ai horreur de ça. Quand on a une majorité de personnes qui pensent et qui se comportent d'une bonne façon, puis qu'on les pénalise parce qu'il y a une minorité de personnes qui donnent des raisons de changer les pratiques. Et je précise une affaire. Desjardins est une coopérative. Ce n'est pas une banque comme les autres banques. C'est une coopérative. Et oui, depuis la création d'Alphonse Desjardins, des caisses Desjardins, l'esprit coopératif a perdu de la cadence et de l'aile et du poil de la bête, mais il faut quand même revenir à ça. Ou alors on change la mission de l'entreprise, on n'est plus une coop. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un tollé. Il y a des gens qui disent « arrêtez, on recule, ça ne fait pas notre affaire, on trouvait ça plus simple ». Il y a même des gens qui disent « je suis tanné, là, ok, vous fermez des caisses en région alors qu'il y a des personnes âgées, vous nous foutez un drapeau du Canada à Journée des Patriotes, on s'en rappelle, sur une affiche, on n'est plus content de faire affaire avec vous, on va s'en aller ». Et qu'est-ce qu'on nous répond? C'est « non, on ne peut pas revenir en arrière ». Ça, c'est absolument arrogant, ça, de la part d'une caisse et d'une coop.
On se comporte comme si on avait encore le monopole au Québec. Et tu as tellement raison, on ne se comporte plus comme une coopérative. Une coopérative, on s'entraide. On est une communauté. Et là, exactement, et là, Desjardins, c'est le grand banquier au-dessus. Pourtant, Crème, moi, Rémi, là, petite parenthèse personnelle, j'ai déjà travaillé chez Desjardins et t'as au moins une journée complète à regarder des vidéos où on t'explique comment les banques sont mauvaises et méchantes pour la clientèle et comment Desjardins, c'est les meilleurs.
Ben, en tout cas, ils ne sont pas les meilleurs là-dedans. C'est les seuls qui ont fait affaire avec ce nouveau système irrécupérable et dont on ne peut revenir. Quelle ingéniosité impressionnante.
Mais ça me fait de la peine aussi pour ceux qui sont peut-être qui vivent là, dollar par dollar, parce que s'ils regardent leur carte de crédit, ils vont faire des commissions comme toi, Rémi, puis ça prend du temps de les voir en facturation sur leur carte de crédit. Ils vont peut-être se dire, j'ai encore de l'argent que je peux dépenser, puis peut-être aller au-delà de leurs moyens. Il y a quelque chose que je ne saisis pas aussi sur la gestion de l'argent, la façon de donner une possibilité à leur clientèle de bien gérer leur argent.
Oui, puis en passant, là, ils nous disent quoi aussi? Le genre, j'ai oublié de le dire. Ils nous disent, votre capacité de crédit demeure mise à jour en temps réel. Sauf que quand tu dépenses de l'argent, tu veux savoir combien tu en as dépensé, pas combien tu peux encore en dépenser.
C'est ça.
Non, mais ça, c'est comme une façon de nous dire, regardez, là, ce qui est important, c'est de savoir combien vous pouvez encore en dépenser.
Combien tu peux t'endetter.
En crédit.
Ben ouais, c'est vraiment arrogant, ça, comme façon de travailler. Nous, on veut savoir combien on vous doit, puis je me mets à la... J'ai pas besoin de me mettre à la place, je suis à cette place-là. Quand je vous paye, je veux savoir tout de suite que je vous dois plus de l'argent. Je vous ai payé, je veux pas savoir dans deux jours. Là.
Non, t'as tellement raison. Rémi, je veux t'entendre un petit deux minutes sur la loi 21 qui présentement se retrouve devant la Cour suprême. Je te fais entendre un extrait de Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin lorsqu'il parlait justement de la différence entre le politique et le judiciaire en parlant des actions de Mark Carney.
Dans l'esprit de Mark Carney, le droit à la religion est vraiment important, même plus important que les autres droits, de sorte que le religieux pourra toujours empiéter sur les institutions, sur les autres droits, et notamment sur les droits des gens qui sont laïcs ou croient pas en Dieu ou ont une autre opinion, ce qui mène, de mon point de vue, à un modèle dysfonctionnel de rivalité entre du communautarisme religieux.
Il a fait ce commentaire-là parce que Mark Carney, ce matin, est allé déjeuner avec un groupe religieux et il a lancé un appel au Québec en nous disant, nous, Québécois, vous devez être ouverts à toutes les institutions.
Oui, bon, enfin, là, je vais vous dire une affaire. Là. Dans les prochains mois, on va avoir la preuve béton qu'il n'y a pas d'indépendance des juges et que la justice au Canada est politique. J'ai juste trois exemples à vous donner qui sont frappants, puis ils nous viennent de Patrick Taillon, qui est un professeur de droit spécialisé en droit constitutionnel à l'Université Laval. C'est pas le genre de gars qui déchire sa chemise en public. C'est un gars assez sobre dans sa façon de travailler. On le rappelle, il faut juste le rappeler, là, les juges sont nommés par nos élus. Donc, si Justin Trudeau a une idéologie et une pensée, qu'un jour il prévoit quitter la vie politique et c'est ce qu'il a fait l'année passée, il nomme des juges qui pensent comme lui et c'est ce qu'il a fait de 2015 à 2025, et ces juges-là seront encore là pour de nombreuses années. Ils peuvent s'en aller quand ils veulent. Deuxième chose, en ce moment, on a des groupes, dont le gouvernement fédéral, qui financent l'attaque contre la loi 21 en Cour suprême. Ça veut dire que les Québécois ont voté pour des élus qui ont fait adopter démocratiquement une loi en juin 2019. Et avec leur argent en ce moment, l'argent des Québécois, le fédéral conteste cette loi-là. C'est absolument indécent.
Ouais. Et rappelons que la FAE fait la même chose. Bonjour à tous les enseignants et enseignantes.
La FAE fait absolument la même chose. Et Patrick Taillon m'a rappelé une chose hier, parce qu'il y a une rumeur voulant que les juges de la Cour suprême pourraient bien s'entendre sur un jugement à l'unanimité avant l'élection, mais ne pas rendre publique leur décision. avant l'élection. Et ça, c'est une rumeur qui circule dans la famille nationaliste en ce moment, parce qu'on sait qu'un jugement, par exemple, qui serait défavorable à la loi 21 pourrait donner une bonne poussée à la CAQ et au Parti québécois en vue des élections. J'ai soumis cette hypothèse-là à Patrick Taillon, je le rappelle, professeur de droit, un homme sobre et objectif, et il m'a dit « c'est probablement ce qui va se passer ». Parce qu'on a des juges à la Cour suprême qui sont antinationalistes québécois et qui savent très bien qu'après avoir dit la loi 21, ça ne marchera pas, mais s'ils rendent public ce jugement-là, bien, les péquistes et les caquistes, pendant la campagne, bien, surtout les péquistes, vont pouvoir dire « regardez, il n'y a pas d'avenir dans le Canada, pas possible de voter une loi démocratique ». Donc là, c'est à surveiller. C'est à surveiller si c'est exactement ça qui va se passer. Chose certaine, la justice n'est pas indépendante ici. Et le politique se débrouille avec la justice.
Rémi, j'adore ce que tu viens de nous apporter, les trois points de Patrick Taillon, et c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre. Puis je suis certain que tu vas continuer à suivre pour nous et nous en parler, on en jase.
Ben oui.
Un gros merci, Rémi Villemur. On se parle jeudi parce qu'à chaque mardi et jeudi à l'émission On en jase, on est avec Rémi Villemur aux alentours de 13h10 pour une excellente chronique. Pascal Cévé, on va avoir une belle discussion dans quelques instants. Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur pour l'Institut Cardius, un jeune penseur de droite conservatrice, un ancien rédacteur de discours de François Legault, va venir s'installer. Il va nous parler du financement dans le domaine communautaire parce que c'est la semaine du communautaire est à bout. Une espèce de grève, mais on donne encore les services, mais de grève de 10 jours. Et il a fait des belles recherches, puis il se rend compte que, Caroline, qu'on n'est pas philanthrope au Québec. Puis ça nous met dans le trouble avec notre filet social.
Puis toi, avec ton grand passé dans le communautaire, veux pas, assurément, ça venait te chercher. Là. Oui. T'as déjà des revendications, c'est sûr.
Il va défendre. D'après moi, il va défendre un petit peu trop le gouvernement. Ça, j'ai une couple d'arguments pour lui.
Je sais pas s'il faisait les discours puis il était proche de François Legault.
Mais ça va être une discussion super intéressante qu'on va avoir dans quelques instants à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Émission On en jase, 13h31 minutes. Si vous n'êtes pas habitué à l'émission, ben, sachez qu'on est toujours de même. Ça roule, c'est chapeau de roue le midi à Boulevard 102.1. On traite de tous les sujets d'actualité pertinents pour vous, soit local, provincial, fédéral ou même international. 418-971-1021 pour réagir. Et d'ailleurs, on se lance immédiatement en manchette. Pascal, on a des nouvelles concernant un accident qu'il y avait eu. C'est JP Metal, c'est bien ça?
Oui, c'est en 2025, à l'été 2025. C'est un accident tragique. Hein? Ça avait coûté la vie à un employé de l'entreprise, comme tu dis, JP Metal. C'est ici, à Québec. Ce qu'on constate, c'est que ça aurait pu être évité, notamment si les opérations de chargement puis de déchargement des appareils de levage sur le dit plateau là, d'une dépanneuse là, avaient été mieux planifiées. Puis ça, c'est les conclusions de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. On la connaît comme la CNSST. Et là, on a eu obligation d'enquêter, veut pas là-dedans. C'est l'organisme responsable de l'application des lois du travail au Québec. Puis le rapport a été publié aujourd'hui sur ce décès-là d'un opérateur de plateforme élévatrice. Donc, plus précisément, c'était le 29 août 2025 où c'est arrivé que l'homme de 58 ans a subi des blessures mortelles. Il avait été projeté au sol, rappelle-toi, d'une hauteur de 1,18 mètres. C'est la plateforme élévatrice qui l'opérait. Elle était sur le plateau de la dépanneuse et il avait basculé dans le vide. Il avait été transporté à l'hôpital puis c'est là qu'on avait constaté son décès. On dit qu'on a relevé des lacunes importantes dans la planification des activités de ce chargement-là et déchargement. Puis c'est ça qui a entraîné des déplacements dangereux sur le plateau en bordure du vide. C'est sûr qu'on a des recommandations aussi. On dit qu'il faut mettre en place des méthodes de travail adaptées, un plan de chargement, déchargement qui tient compte des caractéristiques de la charge, de la remorque, des appareils de manutention utilisés et du lieu de travail. C'est comme si on soulignait le fait que ça n'avait pas été adapté à ce qu'ils étaient en train de faire. On souligne aussi l'importance de s'assurer que les travailleurs sont adéquatement formés pour opérer les appareils de levage et qu'ils sont informés des risques associés à ces activités-là. T'sais, c'est quand même absolument triste là, de voir que malheureusement, on semble y avoir eu, ce n'est pas le mot négligence que l'on utilise, qu'il y a quand même une possibilité que ça aurait pu être évité. Là.
En effet, tu as entièrement raison. On va suivre le tout. Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur à l'Institut Cardius, est avec nous pour nous parler de financement des organismes communautaires parce qu'on est dans le 10 jours du communautaire à bout. Les gens sont fatigués, sont tannés d'être le filet social et de ne pas être appuyés. Étienne-Alexandre, comment ça va?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va super bien. Étienne-Alexandre, j'ai lu le communiqué, j'ai lu une très bonne proportion du rapport et je dois te dire que la première chose qui m'a frappé, puis je repensais à mes 5 années de directeur de financement au Patro Charlebourg, c'est le fait que les gens n'ont pas la fibre philanthropique au Québec.
Ouais. Bien, c'est vrai que c'est dommage, mais cela dit, effectivement, quand on regarde les chiffres, là, je pense que ça a dû te frapper toi aussi, quand tu as vu l'étude, on regarde le don médian au Québec, 160 par donateur, selon Statistique Canada, versus plus de 400 dans toutes les autres provinces. Donc, fait qu'on voit qu'on a un petit écart à rattraper là-dessus.
Mais c'est-tu parce qu'on a le portefeuille trop serré? Puis tu sais, moi, je fais tout le temps le clin d'œil à ceux qui chialent sur les riches. Sans les riches au Québec, là, on a bien moins de dépenses caritatives, on a bien moins d'économies qui roule, on a bien moins... Mais c'est eux aussi qui font des dons pour beaucoup, là.
Bien, exactement. C'est un très bon point. Puis c'est pour ça que l'angle de l'étude en général, puis bon, ça a bien à donner qu'on le sorte cette semaine parce que la question du financement du secteur communautaire des organismes à but non lucratif est un peu à l'avant de la scène, justement, à cause de cette mobilisation-là. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que, oui, le gouvernement peut avoir un rôle à jouer, on conteste pas ça, mais il peut pas être le seul acteur à bord. Ça prend aussi des gens dans la société qui s'impliquent pour ça. Et ce qui nous inquiète un peu, c'est quand on voit dans certains organismes ou certains représentants d'organismes qu'on en a un peu contre la philanthropie, qu'on trouve que ça doit être seulement le gouvernement qui redistribue l'argent aux communautaires, comme si ben, les fondations, les entreprises, les gens qui sont en moyenne, qui ont envie de contribuer, ou même les gens comme vous et moi, qui ont envie de s'investir parce qu'ils croient à la mission d'un organisme, c'est comme si c'était pas bienvenu, parce qu'on juge que c'est arbitraire, alors que le gouvernement, lui, serait complètement neutre, puis que si c'est un bureaucrate, par exemple, au Complexe G qui décide qu'est-ce qui est de la solidarité, qu'est-ce qui en est pas, ça, c'est pas grave. Fait que nous, notre point, c'est de dire, en raison de cette spécificité-là, hein, du secteur communautaire, qui est ni une entreprise pour faire du profit, ni une branche du gouvernement, c'est important d'avoir un financement qui est équilibré, qui vient de plusieurs sources et qui vient aussi de gens en chair et en os, de pas juste du ministère.
Ben, je suis d'accord avec toi parce que vois-tu, moi, dans la famille des patrons d'où je proviens, c'est 40% qui vient du gouvernement, mais 60% qui vient des poches privées. Puis ça, c'était toujours un haut taux de satisfaction chez nous parce qu'on disait, vous voyez les efforts qu'on fait. Alors, on se sentait légitimé de dire au gouvernement, hey, tu me donnerais-tu un petit 2000 de plus parce que, check, pour le projet de 100 000, je suis allé en chercher 90 000 par moi-même. T'sais? Donc, c'est un peu notre façon qu'on avait de procéder.
Là. Absolument. Puis à l'inverse, d'avoir cette autonomie-là aussi, ça fait que le jour où le gouvernement serait arrivé avec quelque chose que tu n'aurais pas aimé, j'imagine, mais c'est pas comme si c'était 90 % de ton financement.
Exactement.
Puis là, tu es un peu pris à gorge si tu dis, ouais, ben là, si tu fais pas ce que je veux, finis le bâton. Alors que tu peux dire, ben là, OK, non, mais on a d'autres sources et tout. Puis tu sais, c'est un peu la même chose. Nous, à l'Institut Cardus, on est financé d'abord 100% par des fonds privés. Puis d'ailleurs, notamment grâce au crédit d'impôt pour charité. Puis ça, c'est important de garder
c'est
ça. Puis c'est drôle parce que j'avais une petite prise de bec sur les réseaux avec des gens de l'IRIS hein, qui, eux, sont beaucoup plus un modèle tout à l'État. Puis qui disaient, ah ouais, mais les crédits d'impôt pour charité, c'est comme des subventions. On disait, attention, c'est pas pareil du tout.
Non.
Parce que c'est la personne qui décide où va son don.
Exactement.
C'est un appui aux gens qui veulent donner. C'est un multiplicateur pour ceux qui ont envie d'aider.
Je suis très d'accord
avec toi.
Mais
c'est pas
une
subvention.
Puis l'IRIS, puis là, je vais me permettre une critique, que ce soit IRIS, que ce soit CIUS, sont pour un 100% parce que c'est pas qu'il y a une cote là-dedans, eux autres, là, veulent pas. Tu sais, moi, là, j'en revenais pas des subventions que j'avais qui passent par le CIUS. Puis là, il y a 8 personnes au CIUS qui ont travaillé sur le programme de formation. Hey, c'est des coûts en crime en administration. C'est fou, ça.
Bien, c'est ça. Puis moi, honnêtement, je pense qu'il y aurait... C'est dur d'en discuter hein, sur un plateau comme ça parce qu'il y a tellement de complications dans le dossier. Tu sais, mettons, moi, je fais une étude comme celle que j'ai fait. Je peux voir l'enveloppe globale. On peut aussi voir dans le détail les milliers d'organismes à qui c'est allé. Mais en même temps, quand moi, comme citoyen, là, je paye des impôts, mais il y a, comme le mentionnait les représentants du mouvement, tout le monde en parle, il y a peut-être 1% de ces impôts-là qui vont dans l'enveloppe, qui vont ensuite aux communautaires. Puis après ça, qui décide sur l'enveloppe de 2 milliards, qu'est-ce qui va aller où? Bien là, bonne chance pour le savoir. C'est pas de la solidarité directe, là. Si, mettons, je veux encourager la banque alimentaire de mon quartier ou le patron de mon coin, bien mieux de donner un chèque. Puis à ce moment-là, si le gouvernement vient m'appuyer avec un crédit d'impôt pour charité, puis ça, d'ailleurs, on pourrait penser à les augmenter si on voulait améliorer justement la charité, donner envie aux gens de le faire.
D'accord.
Puis là, je peux voir que j'ai un impact. Là, c'est des gens que je connais, dont je connais la mission, où je peux m'investir moi aussi, aller faire des heures de bénévolat une fois de temps en temps pour aider parce que je le sais, que j'ai un sentiment d'appartenance. Puis au final, la vraie solidarité, c'est ça.
T'sais. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vais essayer d'y aller rapidement en rafale. La première, si on ne veut pas être taxé et imposé comme on le voit, par contre, à Québec dans les dernières années, c'est sûr qu'il faut amener notre cerveau à se dire qu'il faut donner un peu hein, de notre paye et tout ça. Oui. La deuxième chose, il ne faudrait pas que les politiciens en profitent, par exemple, parce que si on commence à donner aux communautaires, puis en plus, ils continuent taxé, imposé, s'il y a une augmentation, ils sont capables de la constater, peut-être laisser un petit lousse au niveau des poches ou encore des avancées fiscales. L'autre chose, tu commences à avoir un réel avantage sur tes dons après 250 $ de dons annuellement. On pourrait-tu réduire ça automatiquement que tu donnes à partir du premier dollar que donnes? Tu as des avantages fiscaux qui sont associés sur ton rapport d'impôt, par exemple. Parce que 250, pour beaucoup de monde, même annuellement, c'est beaucoup d'argent.
Ben moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis ça va être dans les futurs papiers parce que c'est le début d'une série qu'on fait à l'Institut Cartus sur le secteur caritatif. Parce que nous, on pense que c'est fondamental dans la société. Puis on va regarder aussi les modèles de financement quand on veut inciter les gens à donner à quelque chose. Parce que moi, par exemple, j'ai regardé pour les partis politiques. Okay? Au Québec, par exemple, on sait que le don il est très limité pour les partis politiques. On ne peut pas donner plus que 100 $ pour toutes sortes de questions d'intégrité. Cela dit, les premiers 20 000 qu'un parti va chercher, par exemple, pour chaque dollar que les gens, les citoyens comme nous donnent, le gouvernement donne 2,5 piastres pour 1 $. Fait que ça, c'est un incitatif. Et pour les partis fédéraux, par exemple, quand on fait un don pour le plus petit tiers de contribution, on se fait rembourser presque les 3/4. Fait qu'à ce moment-là, tu as toutes sortes d'effets de multiplicateurs que tu peux faire pour dire, OK, oui, le gouvernement, il garde une implication, mais c'est pas juste le fonctionnaire, justement, qui va décider quel organisme est bon, quel organisme est pas bon. Ça peut aussi partir des gens qui sont touchés par une mission, qui contribuent, puis de dire, oui, bon, même si on n'a pas tant de moyens que ça, de dire, hey, moi, j'ai fait une action pour cet organisme-là. Donc, le gouvernement m'a appuyé, puis ça a suivi, en quelque sorte, ma volonté à moi comme citoyen. Puis là, je suis plus impliqué dans le processus.
T'sais. Maintenant, je me fais une critique envers le gouvernement. Parce que tu parles dans ton étude de hausse du financement du gouvernement, puis en effet, il y a une hausse. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de besoins. On a juste à regarder nos banques alimentaires qui débordent. Cependant, la problématique que je vivais, moi, dans le financement des organismes, c'est que on essaye toujours que les organismes se réinventent.
Ouais.
On ne donne pas assez d'argent à la mission. Donc là, je crée un nouveau projet. Exemple, pour des adolescents qui sont à risque de devenir des criminels. Puis là, je finançais à 75% la première année, 50% la deuxième, 25% la troisième. Puis après ça, organise-toi. Mais un coup que le programme est lancé, tu ne peux pas vraiment le fermer. Mais là, c'est toujours en plus. Et là, compte tenu que la philanthropie individuelle diminue, ben les organismes sont pris avec cette pression-là. C'est un peu pour ça le mouvement communautaire est à bout.
Ben oui. Puis ça, je le comprends. Après, c'est comment dire, il n'y a jamais de solution idéale. Hein? Puis c'est sûr que quand on dépend du gouvernement,
c'est
leurs contraintes qui viennent avec ça. Puis des fois, ça, c'est une autre affaire qu'il ne faut pas oublier. T'sais, il y a plus de 50 000 OBNL au Québec.
Mm-hmm.
Combien reçoivent du financement à l'émission? 5 000.
Oui, c'est ça, pas beaucoup.
Fait qu'il y a toujours un phénomène de choisir un gagnant. Puis si t'es un des malheureux organismes qui n'est pas dans les priorités du moment, bien là, tough luck, comme on dit en chinois.
Puis le problème aussi, puis je parle par expérience avec le Patro, c'est que le Patro, ça offre plein de services. De la banque alimentaire à un CPE. Mais tu peux juste te qualifier à un ministère. Donc nous, on était qualifiés au ministère du loisir. Mais ma banque alimentaire, j'ai 0 $ pour ça. Fait qu'il faut que tout j'aille chercher au privé. Mais le problème, c'est qu'avec l'augmentation qu'il y a, ben à un moment donné, tu te dis, quand même, je ne vais pas laisser personne dans la rue. Mais il y a une capacité à payer aussi d'entreprises privées qui devient limitée. Donc, c'est pas facile.
Ah non, c'est ça. Il n'y a pas de solution parfaite. Puis c'est pour ça que, honnêtement, moi, je pense que ce qu'on devrait viser, c'est le financement le plus diversifié possible.
D'être
capable d'avoir toutes sortes de sources. Puis c'est pour ça que, tu vois, le sens de l'étude, c'est pas de dire le gouvernement devrait sortir au complet. Ça serait impensable. Puis surtout, il faut le dire, au Québec, c'est un plus petit marché. Puis bon, effectivement, les habitudes philanthropiques sont pas les mêmes, mais moi, je pense que, comment dire, il n'y a rien de fatalité. Puis on peut aussi tourner de bord. Puis ça, on n'en a pas parlé encore, mais quand on regarde la tendance, puis c'est la tendance qui nous inquiète surtout.
Oui, vas-y, donc, la tendance.
Quand tu regardes, en 1997, 23% des Québécois déclaraient un don de charité sur leur rapport d'impôt. Ça, 23%, c'est plus que les super riches, là. C'est quasiment une personne sur 4. OK. Puis là, on est en 2024, dernière statistique disponible de StatCan, on est juste à 17,1%. Fait que là, c'est une baisse du tiers des gens qui en faisaient avant.
Puis là, la tendance continue.
Plus. Exactement. Puis ça, c'est préoccupant. Puis au Canada anglais aussi, le pourcentage de personnes qui donnent est en baisse. Fait que là, c'est une tendance lourde. Puis ça, je pense qu'il faut aussi se poser la question comme société, parce qu'à un moment donné, c'est pas juste le gouvernement qui peut tout faire. T'sais, nous, comme citoyens, c'est quoi la partie qu'on a dans la société? À quel point on sent qu'on est responsables les uns les autres? À quel point on sent que oui, on a quelque chose à voir avec ce qui se passe dans notre quartier, dans notre ville, puis qu'on a une part de responsabilité là-dedans, sans dire que ça tombe tout sur nos épaules, mais de dire « Hey, je vais faire ma part, moi aussi. » Puis ça contribue, puis ça fait partie aussi d'une culture de la solidarité, une culture de la charité. On peut pas seulement sous-traiter ça au gouvernement puis penser qu'il n'y aura pas d'impact sur notre vie citoyenne.
En effet. En terminant, justement, comment qu'on fait pour solliciter ça? Hey, moi, j'ai travaillé là-dessus pendant 5 ans, puis c'est tough. C'est difficile. Pascal parlait du coût de la vie tantôt, justement, qui vient beaucoup...
Impacter les dons,
vient,
c'est sûr.
Exactement, qui vient beaucoup impacter les dons.
T'as presque l'impression de faire un don à toi-même.
Ouais.
On fait au lieu de le faire à quelqu'un d'autre.
C'est ça. On fait comment?
Bien ça, moi, je pense qu'on doit... On doit arriver avec des nouvelles politiques pour encadrer la charité. T'sais, par exemple, on parlait tout à l'heure de la question des dons. Puis tu sais, mettons, là, je lance des affaires, là, mais
voici.
Supposons que mon premier 100$ que je donne à n'importe quel organisme, 100% de retour d'impôt.
Ouais.
Qui le ferait pas?
En effet.
Pour vrai.
Mais c'est pour ça que j'aborde le 250$.
Ben oui, mais c'est une très juste observation. Mais parce qu'à partir du moment où on le sait...
Je comprends pas pourquoi ça, c'est pas... C'est encourageant. C'est encourageant. Ben oui. Tu sais directement que tu donnes.
Exactement. Puis moi, je pense que le fait, effectivement, de savoir à qui on donne, puis d'être un peu partie prenante de la mission de l'organisme avec ça, c'est, ça change ta manière de penser. Oui. T'sais.
Ouais.
Si tu contribues à une institution, puis là, toi, tu le sais, tu as travaillé là-dedans. Moi aussi, je travaille dans un organisme à but non lucratif. T'sais, quand tu fais partie d'un organisme, tu fais partie d'une communauté aussi. Tu as des liens avec tes donateurs, des gens
clairement
qui viennent aux activités, qui sont intéressés par ce que tu fais, qui vont t'écrire, qui vont dire « Hey, j'ai vu, tu as fait telle activité, j'ai trouvé ça tellement le fun, continuez et tout. » Tu sais, il y a une expérience de communauté. Ouais. C'est pas pour rien qu'on appelle ça communautaire aussi.
Faut recréer nos communautés, tu as raison. Puis je termine là-dessus. J'ai déjà vu un beau programme aussi gouvernemental avec Québec Philanthrope. Si tu donnais, exemple, 100$ pour un programme dans un organisme communautaire en éducation, Québec Philanthrope mettait 100$ puis le gouvernement mettait 100$, ça fait que ça devient 300$.
Ben exactement.
C'est le genre d'initiative comme ça.
Moi, je pense
que
des fonds comme ça, où, par exemple, le gouvernement va égaler ta mise, c'est super intéressant aussi parce que tu sais que tu as un impact, c'est toi qui choisis où ton argent va, puis en plus, c'est décuplé, puis on t'encourage à le faire. Ça, c'est toutes des initiatives super le fun que je pense qu'il faudrait repenser aussi, au lieu de juste dire on va grandir l'enveloppe qui est gérée par le ministère. T'sais.
Ça tombe bien, on s'en va en campagne électorale. On pourra mettre un peu de pression sur nos politiciens. Étienne Alexandre, c'est toujours un bonheur quand tu viens nous voir. On a des discussions franches, sensées. On tente de créer un monde meilleur, j'adore. Merci beaucoup d'être passé.
Toutes les raisons sont bonnes pour venir à Boulevard.
Ouais, n'hésite pas, tu viens nous voir n'importe quand. Donc, ça va nous faire extrêmement plaisir. Courte pause à Boulevard 101. On vous revient avec l'essentiel de l'actualité pour terminer cette émission. Je vais vous parler un peu du Canadien contre les Hurricanes de la Caroline ce soir au Centre Bell.
On en jase.
On en jase, ton émission d'actualité du midi qui tire à sa fin. Il est 13h52. Météo, je vous le rappelle, 2 degrés alternance de soleil et nuages pour aujourd'hui. Moins 3 alternances de soleil et nuages pour demain et moins 1 avec de la neige pour jeudi. Va faire chaud au Centre Bell ce soir. Les Hurricanes de la Caroline qui visitent le Canadien de Montréal. C'est à 19h sur les zones d'RDS. Les Hurricanes sont premiers dans l'Est. Le Canadien bataille férocement pour les séries avec notamment les Bruins, les Islanders, les Red Wings, les Blue Jackets et les Penguins. Ça se poursuit cette course aux séries ce soir. Pascal, t'as fait un beau dossier qui se retrouve sur le blvd.fm avec Max Larouche aujourd'hui.
Ouais, un dossier de fraude. Puis tu sais, on a plein de nouvelles aujourd'hui. Le Maïté, Blanchette Vézina qui se joint officiellement au Parti conservateur avec Éric Duhaime pour la pelleterie. On parle de santé, de construction. On est vraiment dans une saveur préélectorale, hein, pré-campagne électorale chez les partis.
Ouais.
Gilles Laulier qui aurait été approché par Charles Milliard du Parti libéral, mais tu sais, ça va-tu s'avérer? À travers toutes ces grosses nouvelles, là, Jeff, il y a des petites nouvelles des fois. Puis il y a des fraudes présumées directement dans nos journées, chez nos aînés. Et c'est une auditrice avec qui j'ai conversé la semaine dernière qui m'a allumée sur quelque chose. Et c'est sa mère dans Beauport. Elle est dans une résidence où c'est les 55 ans et plus qui y vivent, OK? Une coopérative, il y a des subventions pour y vivre. Fait que tu comprends que c'est des gens qui n'ont pas énormément de moyens et qui ont le cœur sur la main. Personnes âgées sont bien contents, sont en face d'une école. Et il y a eu quelqu'un qui a décidé d'aller cogner à la porte de l'établissement en bas, puis une personne super smart a ouvert, fait que le présumé malfrat fraudeur est entré dans le bâtiment. Puis lui, ce qu'il demandait, c'est de récolter des dons pour l'école, pour les enfants en face, pour une activité.
Il a usé de la bienveillance des personnes aînées.
On est dans une autre stratagème qu'on n'a jamais vraiment entendue.
Oh,
fait que lui, il demandait, hey, tout ce que vous pouvez donner, moi, je le prends. Hey, eux autres, ils grattaient leur scène 2$, 5$, 10$, 15$, 20$. Mais ils étaient donc bien contents d'aller encourager les petits jeunes qui sont face à eux.
Mais oui, puis là, ils disaient, je vais voir l'autobus scolaire. scolaire, puis je vais voir les chums partir, puis je vais tellement être heureuse d'avoir contribué.
Puis pour te donner une idée, sa mère, à notre auditrice, a 72 ans, c'est la plus jeune du bloc. Fait qu'imagine-tu à quel point ils étaient contents de donner eux Fait que ce qui s'est passé, c'est qu'elle est allumée comme un rond de poêle, cette dame-là, OK? Elle a vu la personne, elle s'est rendue compte qu'elle commençait à cogner à toutes les portes. Elle l'a apostrophée. Elle lui a dit, voyons, je peux-tu voir votre feuille explicative? Puis lui, il a dit, mêlez-vous de vos affaires, je vends pas du chocolat. Elle est allée plus loin. On écoute sa fille raconter.
Puis tu sais, le monsieur s'est vraiment sauvé. Fait que la première affaire qu'elle a faite, c'est qu'elle est partie à l'autre porte du bloc, puis elle l'a pris en photo sans qu'il la voie. Je te dis pas que la photo est parfaite, là, mais on a quand même un visuel. Puis tu sais, tous les portes qui est allée cogner par après, les gens donnent des sous. Il y en a qui disaient qu'elle donne 2$, 3$. Il y a eu quand même beaucoup de 5-10$. Mais le pire, c'est que les madames étaient toutes contentes d'avoir donné pour des sous pour les petits-enfants en avant, parce que ils passent en avant de chez eux. Le trottoir est en avant du bloc, puis l'école est en avant. Oh. Là, c'est la cour d'école. On voit la cour d'école du bloc, là, tu sais. Fait que les gens, ils pensaient faire une bonne affaire, sauf que, ben, ils se sont fait fourrer, moi, de même, excuse-moi.
Le monde me fait mal au cœur.
Tu sais, c'est capoté de voir ça. Là, ils ont appelé la police. La police n'est pas allée les voir, mais ont pris la déposition, la plainte. C'est un peu... comment dire, c'est délicat parce qu'on sait que ça sera pas la priorité actuellement des policiers. On a averti aussi les gestionnaires de l'établissement. Par contre, il faut toujours rappeler à nos aînés, aux gens qu'on aime, que ça existe. Puis là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
Exactement. Le retour de Gravel suit à l'instant avec Denis Gravel, Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Le dossier de Pascal CV se retrouve sur blvd.fm. Maïté Blanchette-Vézina en entrevue avec nous demain à midi à l'émission On en jase. Branchez-vous via l'application BLVD 102.1 disponible sur App Store et Google Play Store. Et Pascal, à 1h30 également demain, tu vas nous faire un excellent dossier sur la sécurité et la technologie. Une annonce de Christine Fréchette qui est très intéressante.
Très intéressante. Est-ce que vous choisissez la sécurité publique ou de la vie privée? C'est un peu ça, la question.
Ah, ça va être donc bien fun à parler, ce dossier-là. Préparez vos textos. 418-971-1001. Bye-bye, guys. Bon après-midi.
Bye. What?